Radio Courtoisie.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national. À Paris sur 95 MHz 6, à Caen sur 106, à Chartres sur 104.5, à Cherbourg sur 87.8, au Havre sur 101.1, au Mans sur 98.8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS, et pour le monde entier sur le site internet tv-radio.com. Vous écoutez le libre journal de Serge Le Bekech avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 8 juillet de 18 à 21h, en différé jeudi 9, dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce libre journal est réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Elle comprend l'abonnement annuel au courrier de Radio Courtoisie. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85, par télécopieur au 01 46 51 21 82.
Amis de la Résistance, bonsoir.
Bonsoir.
Ça va-t-il ?
Ça va bien. Et vous ?
D'accord. Marquis, comment allez-vous ? Oui, moi ça va, ça va.
Ça va,
hier,
ça va.
C'est bien. Oui, parce qu'hier on a fait le bouclage avec le Marquis. D'ailleurs, si vous voulez savoir comment se passe le bouclage, le Marquis a fait un reportage. Parce que nous, on travaille en circuit fermé, comme ça. Le Marquis vient au bouclage et dans son article, il raconte comment se passe le bouclage.
Ah ben voilà.
C'est du journalisme auto-alimenté.
Et si un jour je vais au bouclard, je vous le raconterai pas.
C'est bien, je vous remercie, ça nous évitera des protestations.
On peut préciser que le couscous du coin nous a invités à déjeuner après.
Ah oui.
Ça c'était formidable,
je vous tire
un coup de chapeau. Vous racontez, vous.
Bon, on a déjeuné comme toujours. Alors, c'est intéressant notre histoire quand même. On a déjeuné dans le couscous qui est mitoyen de...
Du journal
De pas du journal, mais de l'imprimerie.
De l'imprimerie.
Et puis au moment de l'addition... Le gars nous dit, vous êtes nos invités, messieurs. J'ai encore pas compris pourquoi, mais j'ai trouvé que c'était une bonne idée. On essaiera d'y retourner, voir si c'est comme ça à chaque fois.
Non, mais on sait pas le motif.
Le couscous, c'était-il bon?
Si on y va, c'est qu'il est bon. Voyons.
Enfin, voyons.
Question curieuse. Bonsoir, docteur.
Bonsoir, monsieur.
Bonsoir, docteur.
J'ai le droit de vous appeler docteur? Non, ça a l'air de pas vous plaire. Vous voulez pas qu'on vous appelle docteur? Bon,
non.
On va pas vous appeler docteur, alors on va vous appeler madame. Ou...
Voilà, très bien.
Daniel Avenel, qui est auteur d'une approche méconnue des médecines alternatives. On ne peut soigner sans connaître la cause profonde de la maladie, nous dit. Alors, on en parlera tout à l'heure. Je reçois également... Bonsoir, je vous dis pas docteur, vous n'êtes pas docteur non plus.
Ah non, pas du
Françoise Mesquida, qui a écrit un très joli livre qui s'appelle « À la porte de l'Oued », qui sont des souvenirs d'une petite fille en Algérie, à l'époque où il valait mieux être ailleurs, mais elle était là-bas. Et on parlera de ça. On va recevoir également, le Marquis, vous savez qu'il est là. On va recevoir, qu'une surprise, l'abbé Cellier.
Non.
Oui, incroyable. Et vous savez de quoi il va nous parler ?
Je sais pas.
Du dernier numéro de Fidélité.
Non, on n'en sort pas du Cellier.
Qui est consacré au cinématographe. Il est très très bien d'ailleurs. Très très bien. Le cinéma, ange ou démon ? avec une belle photo de Mel Gibson, l'auteur de La Passion de Jésus-Christ, avec la casquette à l'envers et la visière sur la nuque. Enfin, ça, c'est pour faire cinéaste, c'est pas pour faire...
Non, c'est pour les coups de soleil sur la nuque.
Protéger du soleil.
Et puis, nous recevrons Jean-Claude Chabrier, musicologue, qui viendra nous parler du Kosovo 5 ans après la guerre. Mais d'abord, je dois présenter des excuses aux auditeurs, parce que je vais passer pour une cervelle... comment dit-on ?
De piaf.
Cervelle de piaf, voilà, merci. Parce qu'il y a une semaine ou 15 jours, je ne sais plus exactement d'ailleurs, j'ai expliqué, je ne sais pas pourquoi, que j'étais, d'un seul coup, j'ai décidé que j'étais contre la peine de mort.
Mais ça tombe mal en ce moment.
Et puis en ce moment, c'est vraiment pas tout à fait indiqué, d'autant que je viens de signer la pétition du Comité national pour le rétablissement de la peine de mort. Donc, il faut expliquer quand même que tout ça n'est pas très logique, mais que comme mon idée d'ouvrir un bagne dont on ne revient pas sera probablement jamais appliquée, j'en suis revenu à mes idées premières. Alors donc, le Comité national pour le rétablissement de la peine de mort, qui vient d'être créé à l'initiative du bureau de la Griffe, Alliance générale contre le racisme et pour le respect de l'identité française.
Donc vous êtes vice-président.
Que je suis vice-président d'eux.
Voilà.
Donc c'est pour ça que j'ai signé, j'ai pas le choix.
On peut pas le faire autrement sous la torture.
Hein. Alors c'est donc parmi les fondateurs, membres fondateurs, il y a Maître Jean-Baptiste Biagi et beaucoup d'avocats, ce qui est curieux d'ailleurs. Moi je pense que les avocats, ceux qui sont pour la peine de mort, c'est peut-être parce qu'ils se disent que comme ça, après ils auront pas de protestation de leurs clients.
Moi j'avais une autre formule, j'ai un copain à qui j'ai dit tu peux continuer à exercer la profession d'avocat puisque maintenant la peine de mort était abolie.
Ah oui,
c'est très content moi. D'ailleurs.
Non mais dans le cas de, c'est purement vachard ce que je dis, c'est là. Donc Maître Biagi qui est avocat honoraire, commandeur de la Légion d'honneur, médaille de la résistance, ancien député.
Et Corse.
Et oui, ça va sans dire. Maître Georges-Paul Wagner, avocat honoraire, ancien député. Maître Le Griel, avocat à la Cour de cassation. Maître Valrand Saint-Just, avocat au barreau de Paris. Le docteur Jacques Corraz, agrégé de philosophie, professeur agrégé de médecine, psychiatre. C'est vrai que là-dedans, je fais quand même un peu tâche. Hein.
Ah non,
Serge de Miquette, titulaire du BEPC, vous croyez que ça peut impressionner le monde ?
Ah, vous avez le BEPC ?
Ouais. Bernard Anthony, président de Chrétienté Solidarité, président de la Griffe. Michel de Rostalan, président du Cercle Renaissance. Henri de Lesquin, président du Club de l'Horloge. Alain Rostand, vice-président de Renaissance Catholique, mon alter ego, en mieux. Hélène Sabatier, secrétaire générale de la Griffe. Jeanne Smith, journaliste, directrice de présent, mère de famille. Richard Haddad, éditeur. Michel Barski, cinéaste, vidéaste et membre de Chrétienté Solidarité et de l'association France-Russie. Mais je suis pas certain qu'il est poutiniste. Enfin, je lui pose la question.
Poutiniste, attention.
Ouais. Moi, je suis poutiniste, oui. à 100%.
Effectivement.
J'attends les Cosaques et le Saint-Sacrement. Marie-France Tirebois, ancien député. Pourquoi on dit pas ancienne députée ?
Ah, pas chez nous.
Pas chez nous. Ah, vous avez remarqué un truc. Bon, je termine, oui. Après je vous parlerai.
Je fais la peine
de voir. Il y a un truc qui m'a frappé quand même. Jacques Bompard, maire d'Orange. Roger Tébib, docteur en sciences religieuses, docteur en droit. Claire Vlac, professeur d'histoire, ancien élève de l'école normale supérieure. J'ai vraiment, oui, avec mon BEPC, j'ai pas l'air mal. Hein.
Tiens. Ah, vous êtes vice-président.
Enfin, ça fait.
Hein, vous êtes vice-président.
Oui, je suis vice-président. Hein.
Ouais.
Et puis voilà. À propos d'Orange, si vous êtes dans la région d'Orange au mois d'août, je vous recommande tout spécialement de ne pas manquer un événement qui est la projection de la Passion du Christ dans le cadre du Théâtre Antique à Orange, le jeudi 12 août 2004 à 21h30. Alors, le prix c'est 5 euros.
C'est rien.
C'est complètement dérisoire. C'est le même prix que le livre journal, ça veut dire à quel point c'est pas cher. Et les renseignements sont à prendre au service culturel de la ville d'Orange. Le téléphone, si vous voulez le noter, puisque vous serez tous dans cette région-là, je pense, cet été, au mois d'août. Ben si, parce qu'il y a une conférence, il y a une université d'été de Chrétienté Solidarité. Enfin, c'est pas Chrétienté Solidarité d'ailleurs, c'est National et Populaire, je sais plus quoi
faire. Oui, enfin,
un truc.
Moi, je serai pas là, je serai à la montagne.
Voilà. Bon. Ah, ben c'est bien.
Partout. Ouais.
Vous faites du ski
Je serai, oui. Mais je suis partout sauf Orange.
Oui, d'accord. Je suis partout. C'est pas une bonne adresse, ça. Hein. Donc, le service culturel de la ville d'Orange, 04 90. 51 57 57 04 90 51 57 57. J'ai remarqué que, naturellement, Victoria n'a pas noté, ce qui fait que dans deux minutes, elle vient de dire, c'est quel téléphone déjà que, c'est quel téléphone que c'est la,
la, Il n'est pas du tout, j'ai le journal sur lequel elle est écrite, cette adresse.
C'est bon. Bien. Je peux en profiter pour dire que Louis XIV disait, en parlant du théâtre antique d'Orange, c'est la plus belle muraille de mon royaume. Allez donc voir aussi la plus belle muraille du royaume.
C'est très joli. J'ai remarqué une chose. Je regardais mon litré, comme d'habitude. Le soir, je lis le litré, moi.
Mmh. Et je cuve mes litrons, mais enfin, c'est autre chose.
Et alors, j'ai remarqué en lisant le litré que couple a deux sexes, si j'ose dire. Hein, on peut dire un couple ou une couple.
Ouais.
Alors, une couple, c'est quand c'est deux personnes, ou deux objets, ou deux animaux qui sont... réunis par un intérêt qui sont ensemble simplement quoi, par exemple des chiens courants, on dit une couple de chiens courants. Un couple, c'est quand il s'agit d'un couple d'amoureux. Ce qui fait que vous pouvez dire mon oncle et son petit ami forment un couple de tantes. Mais les deux sœurs de mon père forment une couple de tantes. C'est quand même curieux, non ?
Non, et vous, une couple de tantes.
Bah oui, les deux sœurs de mon père forment une couple de tantes.
Vous n'allez pas les vendre au marché ?
Ça dépend, pourquoi pas. Alors, en Arabie Saoudite, on peut peut-être arriver à tirer un bon prix.
J'ai rien compris.
Non, ça ne m'étonne pas. Donc voilà, c'est tout. C'était une remarque de caractère sémantique. Vous pouvez écrire au maire si ça vous plaît pas. C'est le même prix, c'est pas lui qui fait le dictionnaire. Le maire de Paris, je veux dire.
Ah, c'est le directeur de Homo Lulu Plage.
Alors donc, cette histoire de rétablissement de la peine de mort, oui, c'est vrai que l'idée de créer un bagne où on parachuterait les gens puis on les laisserait se débrouiller puis on reviendrait jamais, c'est compliqué parce que je vois bien qu'il y a une opposition de caractère humanitaire à tout ça, surtout que j'avais proposé de les parachuter avec des parachutes troués.
Et il y a déjà Saint-Tropez, ça existe déjà.
Oui, mais enfin, on en revient, hélas.
Oui, dans quel état ?
Et donc, l'idée, ce serait de rétablir effectivement la peine de mort. Parce que quand on voit un personnage comme comment s'appelle-t-il, ce garçon-là ?
Oui, qui est condamné à 35 ans, qui est en liberté depuis 20
ans. Oui, Baudin. Là.
Ouais.
Alors, voilà un garçon qui a été condamné à une peine incompressible de 28 ans de prison, ou de 18 ans, je ne sais plus exactement. Il est sorti au bout de 8 ans, et personne ne s'en émeut. Alors qu'il faut quand même rappeler qu'il y a un dénommé Lajoie, qui est en prison, qui a été condamné à 18 ans de prison, pour avoir posé un pétard dans un bar à Turc. Le pétard a explosé, il n'a blessé personne. Absolument, il n'a même pas eu un blessé. Bon. Et ça fait... Il a été condamné à 18 ans. Il n'a eu aucune remise de peine depuis 18 ans. Et il va sortir, je crois que ça fait 15 ans qu'il y est maintenant. Donc ce garçon, tout simplement, qui était un type d'extrême droite, qui en plus s'est fait manipuler par des services de basse police pour cette opération, il le dit lui-même, il le reconnaît aujourd'hui, eh bien ce garçon, lui, il aura passé 15 ans en taule, alors qu'un multirécidiviste du viol, de l'agression sexuelle, de l'assassinat, etc., comme Baudin, est sorti au bout de 8 ans alors qu'il était condamné à une peine incompressible. Alors, monsieur le père Ben, ça n'a pas du tout l'air de l'émouvoir, et chose formidable, comme par hasard, ce matin, on apprend que, depuis plusieurs mois, une commission de l'Assemblée nationale se penchait sur la question des récidivistes dans les crimes sexuels, et cherchait une solution pour... empêcher ce genre de récidive. Alors ils ont trouvé un truc absolument génial qui normalement devrait soigner tout à fait, ça devrait être radical contre le crime sexuel, c'est le bracelet électronique.
Oui.
Moi j'ai une autre solution, c'est le collier de chanvre. Je trouve que c'est plus économique, puis ça marche aussi bien, puis c'est radical aussi. Ou alors il y avait aussi ce qu'il y avait dans le film... je ne sais plus comment s'appelle ce film, qui était d'ailleurs extrêmement mauvais, où les gars étaient envoyés dans une espèce de prison, et on leur disait, vous pouvez aller partout, mais si vous franchissez la ligne jaune, le collier que vous avez autour de la tête contient un explosif qui vous décapite immédiatement. C'était sympathique, selon moi. C'était des méthodes à la fois humaines, efficaces.
Le rapporteur de la commission sur France Inter,
Clément, il s'appelle.
Oui, disait à une heure que c'est bien le collier et que ça peut un peu dissuader. Et
le bracelet.
Oui, le bracelet pour le collier. Et l'intervieweur lui disait, oui, mais enfin, si on a un collier au pied ou un bracelet au pied, ça n'empêche pas quand même de commettre un viol. Et l'autre dit, bah oui, mais on pourra quand même le retrouver plus facilement, mais en attendant, la gamine, elle sera quand même...
Voilà. Cela dit, l'idée pourrait consister à mettre le bracelet ailleurs.
Ça, oui.
Au bras, par exemple.
Au bras, oui. Hein? Voilà. Ça serait tout à l'honneur. De la...
Et je ne sais pas quelle est la situation morale, ça m'intéresserait quand même de savoir quelle est la situation morale du magistrat, du juge d'application des peines, et de l'expert, qui ont décidé que M. Bodin... Au bout de 8 ans, il a passé 35 ans de sa vie, soit en prison, soit dans les hôpitaux psychiatriques.
Je pense qu'ils sont tout à fait tranquilles.
Ils sont tranquilles.
Ah, j'en suis convaincu. Moi, je l'ai magistrat dans ma famille, je suis sûr qu'ils sont tranquilles.
Ça les émeut. Parce que, oui, un chauffeur d'autobus, par exemple, qui renverse une vieille dame en état d'infraction alcoolique, le chauffeur, pas la vieille dame, il perd son boulot, au moins, et il va en prison.
Ah, pas les juges.
Le juge, il libère un type qui tue dans une gamine, on lui dit ben vous avez appliqué la loi, c'est très très bien monsieur le juge. Il faudrait peut-être sortir du système où les juges s'auto-amnistient à longueur de journée, parce qu'on reproche aux hommes politiques de le faire, mais je vous signale que la loi française interdit pratiquement de mettre en cause un magistrat.
Et si le juge est un peu triste parce qu'il réfléchit à la prochaine promotion de la Légion d'honneur, il est dans la rafle.
Voilà. Alors, à propos donc de ces affaires de criminels pédomanes, je voudrais quand même ajouter un petit détail. C'est que j'ai fait mon édito dans le livre journal là-dessus parce que ça paraît quand même un peu bizarre ces affaires-là. Il faut savoir que ces derniers temps, disons dans les quelques années qui précèdent, il y a eu des affaires comme à la Ciotat, des photographes qui faisaient des photos de mineurs dans les pays de l'Est et qui les vendaient ont été arrêtés, le dossier a été classé. Dans l'affaire du pasteur Stamford, la justice française a refusé toute collaboration avec la justice britannique, alors que Stanford avait des complices à Dijon, à Champigny-sur-Marne, à Tours, à Granville, à La Ciotat, à Paris. Une affaire de CD-ROM contenant des photos d'enfants, parmi lesquelles des photos d'enfants assassinés, des photos dont je ne vous précise pas la nature, a été classé dès que le principal occupé est mort. Dans l'affaire Kamal, 3 enfants ont accusé des magistrats d'avoir fait partie de leur... comment peut-on dire... de leur harceleur. À Cachan, un magistrat, ancien président de la Chambre à la Cour d'appel de Paris, a été arrêté alors qu'il s'occupait d'un petit garçon de 13 ans dans les toilettes de la piscine. À Versailles, le substitut général de la Cour d'appel a été interpellé pour détention d'images pornographiques. À Nice, il y a eu un scandale énorme avec des magistrats maçons, et pas seulement maçons. Lors de deux récentes opérations lancé contre des réseaux de producteurs et d'amateurs de pornographie pédomaniaque. Il y a 500 clients identifiés ont été interpellés et inculpés. Sur ces 500 clients, il y avait 50 magistrats. Pas un seul n'a été mis en cause devant la justice. Donc il faudrait peut-être s'interroger quand même sur ce système d'autoprotection de la magistrature.
Rassurez-moi, l'école de la magistrature à Bordeaux, c'est un internat.
Oui, mais enfin, ils n'ont pas 12 ans quand même, hein. Je vous rassure tout de suite. Voilà, ce que
vous trouverez tout ça dans le Libre Journal, 4 places France Lys, 75 000 10 Paris. Salut, Goffman. L'abonnement, 110 euros par an, le réabonnement, 100 euros. Le reste, c'est écrit pour faire bien.
Voilà. Oui, Goffman va être content.
Mais attendez, il y a un message.
Ah
un message.
C'était grondé.
Je l'ai perdu, mon Dieu, où est-il? Où est-il?
C'est dramatique, ma pauvre.
Je suis très contente, nous dit cette auditrice, d'entendre davantage le marquis. Mais je voudrais quand même bien savoir pourquoi Patrick Goffman n'est pas là.
On va ouvrir toutes les semaines, on va ouvrir par la rubrique
Lugan,
des nouvelles de Goffman et des nouvelles du professeur Lugan.
Hein? Hugo, il est en vacances.
Goffman, il est fâché. Je vous explique clairement. Goffman est fâché contre Victoria. Donc, il ne veut plus venir à l'émission parce qu'il est fâché contre Victoria.
Voilà. Il a peur. Il a peur.
Non, il n'a pas peur.
Ma grosse voix couvre son frêle organe. Je le répète, je l'ai déjà dit.
Si vous
mettez
une claque et qu'il vous rate, il vous enrhume. Alors, il n'a pas peur. Simplement, il est fâché contre vous.
Mais
voilà, ça, c'est une chose. Deux, non, c'est pas pareil. Il y a d'avoir peur et être fâché. C'est deux choses différentes. Deuxième chose, le professeur Lugan. J'indique que je n'ai pas, moi, le pouvoir de donner une émission au professeur Lugan. Il n'y a qu'une personne dans le système actuel de la radio qui peut donner une émission à quelqu'un que vous aimez, c'est M. Jean Ferré. Donc, ce n'est pas la peine de m'écrire à moi en me disant « donner une émission à Bernard Lugan ». Je n'ai pas le pouvoir d'attribuer des émissions.
On va s'en ferrer si on continue.
Alors, vous écrivez à Jean Ferré, 61 boulevard Murat, 75-016 Paris, et vous lui dites « Monsieur Ferré, je suis amateur de Radio Courtoisie, auditeur de Radio Courtoisie, adhérent à l'association de Radio Courtoisie. »
À jour.
À jour de mes cotisations.
Ça aide.
Et je désire qu'on donne une émission à Bernard Lugan, parce que c'est excellent. Et qui est d'ailleurs mon avis personnel, je trouve son émission excellente.
D'accord.
Et passionnante. Et son journal, d'ailleurs, dont le dernier numéro, L'Afrique réelle, vient de paraître, est très
bien. J'ai pas l'adresse.
Aussi. Boîte postale.
6.
6 à Charroux. Charroux dans... Si, Charroux, c'est H.
C'est Charroux, 208.
Oui, Charroux avant les...
Mais du côté de... Il y a deux Charroux en France.
06. C'est...
Ah, ça y est.
C'est du côté de... Non, non, du côté de Nevers, par là, de Bourges. Enfin, dans le centre de la France. Voilà. Bon, vous trouverez, de toute façon, si...
On va nous l'écrire, on va nous l'envoyer.
Voilà, on va nous... Donc, alors, vous, c'est pas la peine de parler de l'Afrique réelle à Jean Ferry, il n'est pas concerné. Je parle de l'émission.
Voilà.
Vous lui dites, je souhaite, je tiens la main, ce que l'on... Parce que c'est quand même du beau langage. Parce que l'on donne une émission à temps d'antenne à M. Lugan. Et Jean Ferry qui n'a pour...
que seul volonté, souci l'auditeur...
Que seul souci de faire plaisir aux auditeurs, il n'y a absolument pas de raison
qu'il
n'accepte pas à vos demandes.
Voilà.
Voilà. Voilà, voilà, voilà.
Quant à Goffman, eh bien, notre ami Victoria lui envoie son plus joli sourire. Voilà, Patrick. Reviens, on t'aime.
C'est vrai qu'il
mais moi,
on dirait un sourire de dessin
mais,
animé.
Mais,
sourire,
moi, je n'ai, mais moi, je n'ai
en
rien. Mais moi, je n'ai rien du tout.
Reviens, on te pardonne et on t'aime.
Reviens, mardi,
c'est sur les pieds, incidemment. Voilà.
Bien. Alors, toutes ces choses-là étant dites, si vous voulez adhérer au Comité national pour le rétablissement de la peine de mort, vous pouvez écrire à la GRIF, pour l'instant, puisque c'est la GRIF qui recueille les dons et les aides financières pour animer ce comité national, 70 boulevard Saint-Germain, 75-005 Paris. Voilà.
Vous avez beaucoup d'auditeurs, mais alors
oui.
Beaucoup qui sont tout à fait d'accord avec vous.
Oh, ça...
Il n'y a pas d'autre solution que la peine de mort pour ces un
oui.
Gros mot de gens.
Voilà. Ils disent tout ça. Vous avez au moins 200 messages et ils disent tous la même chose.
Oui, il y en a qui disent, enfin, on dit beaucoup, la suppression de la peine de mort pour les malfaisants, c'est l'institution de la peine de mort pour leurs victimes. Merci pour eux. Là, on vous suggère le croc de boucher.
Oui, moi j'aime bien le croc de boucher, ça a son charme évidemment, mais il faut savoir qu'il a été utilisé dans des conditions qui moi me déplaisent. Il faut quand même pas oublier que le regretté Duce a été
rendu
un croc de boucher, ce qui donne une mauvaise réputation à ce. Enfin, pour moi c'est un mauvais souvenir, oui. Encore que j'étais pas né, mais c'est un mauvais pré-souvenir, proto-souvenir.
Voilà. Proto-souvenir.
Ouais. Hein, j'aime pas trop qu'on fasse du mal au Duce, que je considère comme le plus grand homme d'État du XXe siècle.
Oui. Et un auditeur nous dit, à propos du comité pour le rétablissement de la peine de mort, Jean-Marie Le Pen, le seul qui aurait été condamné, c'est Jean-Marie Le Pen, pour violence sexuelle sur la personne de la mairesse de Mantes-la-Jolie. Alors méfions-nous de ces lois.
Ah, tu parles.
C'est beaucoup dire. Je sais bien que...
Elle en a rêvé, mais il ne l'a pas fait.
La mairesse en a rêvé, mais Le Pen ne l'a pas fait. Contrairement à Sony.
Voyez l'exemple de Michel Lajoie, condamné à perpétuité, jamais libéré, alors que les autres, que tous les autres sont dehors.
Oui, la joie, c'est un véritable scandale. C'est une honte. Chirac, il sera damné à cause de ça, parce que il aurait dû. Il a eu plusieurs demandes de grâce présidentielle. Il aurait pu l'accorder, puisque la joie. ce qu'il a fait, bah, c'était surtout parfaitement imbécile de mettre un pétard dans un bar, enfin un gros pétard, donc il a quand même un peu ravagé le bar, mais il n'a pas eu de blessé, c'était un bar turc en plus, bon, ce qui est une circonstance aggravante, je m'empresse de le dire.
C'était hein, bien comme ça, je l'avais entendu.
Bon, vous m'avez bien compris, et donc plusieurs fois on lui a demandé de faire usage de son droit de grâce, il n'a jamais répondu.
Non.
Voilà un jeune qui est entré en prison, il avait 20 ans, il va sortir de prison, il aura près de 40 ans. Donc il aura passé les plus belles années de sa vie. Remarquez, pendant ce temps-là, il n'a pas fait de bêtises, mais les plus belles années de sa vie en prison, en se battant avec un courage admirable, parce qu'il faut savoir que Michel Lajoie, c'est un détenu modèle, mais c'est pas un détenu facile. Il a quand même fait condamner plusieurs fois l'administration pénitentiaire sur des sujets extrêmement gênants. Par exemple, il y avait des trafics de cassettes vidéo porno. En prison. Il a porté plainte, il a fait condamner des gens. Ensuite, il y avait des trafics de logiciels, enfin des utilisations frauduleuses de logiciels copiés. Il a dénoncé ça, il a dit vous me foutez en prison parce que j'ai fait du mal, et pendant ce temps-là, les gens qui sont autour de moi, les gens de la prison, officiellement,
oui, sont hors la loi, oui.
Se mettent hors la loi. Je poursuis. Il a gagné. Il a naturellement, à chaque fois il se retrouve au cachot, il a toutes les punitions. Chaque fois il poursuivait la décision qu'il avait envoyée au cachot, chaque fois il a gagné, il a obtenu des dommages et intérêts.
C'est grandiose ça.
Ah, c'est un type absolument extraordinaire. C'est d'une résistance morale, il est d'une résistance morale, mais formidable. Formidable, c'est un véritable modèle. Je le dis exactement, très très posément, c'est un modèle de résistance pour notre génération et pour les générations qui suivent. Il est entendu que ce qu'il a fait est mal, mais il aurait dû passer. Allez, moi, qui suis un peu, comment dire, punitif ou violent, je lui aurais collé un an. Ça méritait un an et plus 200 heures de travaux généraux pour repeindre
le
bistrot lui-même.
Voilà.
Mais la condamnation qu'il a reçue, c'est ignoble et il ira jusqu'au bout de sa peine parce que il n'y a rien à faire. Ils ne veulent pas le gracier. Voilà.
Oui,
Monsieur Juppé a démissionné de mandat de machin truc.
Alors les auditeurs et même les auditrices qui font très attention à tous sont aperçus que j'avais dit encore une bêtise à propos de la date.
Non.
J'ai annoncé qu'on était le 8 juillet. Eh bien non, nous sommes le 7.
Mais enfin, écoutez,
pardon, chers auditeurs, je ne connais pas.
Le temps vous presse.
Le temps me joue toujours des tours. Je ne le vois pas passer.
Il y a un monsieur qui dit, lorsqu'on est un ami de la résistance, on ne se tape pas un couscous, mais on mange de la charcuterie. Cela dit, pour les gnostiques et les païens, je ne sais pas. Alors, je voudrais répondre.
Si ça savait ce que j'ai envie de lui dire.
Oui, parce que les gnostiques et païens, c'est pas dans le débat, mais je voudrais quand même signaler que opposer le couscous à la charcuterie, c'est une ânerie, monsieur, si vous me le permettez. Mon cher auditeur anti-gnostique. Je vous remercie. D'ailleurs, j'ai reçu votre réponse, cher monsieur, à ma question sur le filioque, mais il va me falloir à peu près 8 jours pour arriver jusqu'au bout.
D'abord digérer.
Mais donc, et pas le plus gros couscous. Parce que le couscous a été inventé par les sous-officiers de l'armée française.
Bah
oui. Hein. Je ne peux quand même pas croire que ce plat délicieux a pu être inventé par des bédouins, non? Non, mais il ne faut pas rigoler. C'est des Français qui ont inventé le couscous, monsieur. Et donc, on peut parfaitement être Français et aimer le couscous.
Et dans des fesses à ma mère, on n'était pas sous la tente pour le manger, on était à la terrasse.
Oui, absolument, voilà. À la terrasse.
Et alors, toujours dans le cadre de mes pouvoirs, d'où vient à Victoria ce pouvoir d'évincer les autres? Mais j'évince personne,
mais non,
moi.
Il n'a pas voulu revenir, c'est pas pareil.
Je jure que je ne disais pas de ma faute. Je n'y peux rien.
La puissance occulte.
Peut-on toujours commander les produits Loribo?
Oui, absolument. Tiens,
d'ailleurs, dans le Libre Journal,
il y a l'adresse.
10 place France Nice.
Non, il y a un endroit à Paris où c'est vendu. Ah, le non, il n'y a pas les produits Loribo, place France Nice, attendez.
Enfin, non, vous pouvez trouver l'adresse.
Le produit, le G5, est vendu maintenant à Paris, dans une boutique qui s'appelle La Nature à Paris. 45 boulevard Saint-Germain, 75 005 Paris. Et c'est exactement le même prix qu'en Irlande. Donc, faut pas hésiter. 45 boulevard Saint-Germain, 75 003 Paris.
Et vous trouverez ça dans le Libre Journal, 4 place France Lys, Paris 10e, 110 euros d'abonnement par an.
Et la même auditrice demande, ferez-vous une émission sur les ovnis?
Oui, pourquoi pas, après tout, ça ne sent pas la première émission idiote qu'on fera, mais on peut encore.
Un auditeur vous confirme, Dans le dictionnaire de 1920, une couple, c'est un ensemble de deux choses identiques. Mmh. Une couple de... Mmh. Un couple, c'est un homme et une femme.
Ben c'est bien, il est du même avec M. Listré, alors tout va bien.
Pouvez-vous nous donner l'adresse de votre fameux couscous?
En rue de l'Atlas. Voilà. C'est vrai qu'il est bon en plus.
Puis ils sont très gentils.
C'est simple.
Et puis la sœur du patron est super. Enfin bon.
Oui, enfin ça. Oh là là. Bien, alors maintenant nous pouvons revenir aux choses sérieuses.
Très sérieuses.
Vous voyez, comme nos invités se dissipent, vous savez, maintenant, on peut en dire plus. Donc je vais, conformément au plan d'émission que j'avais établi, je vais me tourner vers Madame Danielle Avenel pour qu'elle nous présente son livre, donc qui s'appelle Une approche méconnue des médecines alternatives. Alors déjà, les médecines alternatives, c'est une chose très particulière, mais qu'est-ce que vous entendez par une approche méconnue des médecines alternatives?
C'est-à-dire que dans l'ensemble, les médecines alternatives sont connues la plupart du temps, mais c'est vrai que j'ai essayé de faire passer deux messages, c'est-à-dire que on traite la plupart du temps un symptôme, mais un même symptôme peut avoir différentes causes, des causes tout à fait différentes. Par exemple, je vais prendre comme exemple une cervicalgie, c'est-à-dire des douleurs de cervicales. Ça peut être tout simplement lié à un muscle qui a été perturbé par un faux mouvement. Ça peut être par ailleurs un problème, et là on le sait beaucoup moins, un problème dentaire, un problème de malocclusion dentaire. Et ça, il y a trop peu de dentistes, hélas, qui le savent. Et là, vous réglez une occlusion, j'en ai vu beaucoup de régler comme ça, des douleurs d'épaule. Ça peut même, une malocclusion, aller jusqu'à des problèmes lombaires, par exemple.
On avait reçu d'ailleurs une invitée qui était dentiste et qui d'ailleurs a publié un livre, je crois, aux éditions du Dauphin aussi, sur la question des amalgames.
Oui. Ça c'est encore un autre problème.
En
oui, tout à fait.
Tous les problèmes que ça pouvait poser notamment en ce qui concerne les sujets que vous évoquez, mais également les questions d'acouphènes,
oui,
et des questions de troubles nerveux, de maux de tête, etc.
Mais j'y consacre en fait un chapitre. Mm-hmm. C'est vrai que le mercure, enfin la bouche est un petit endroit qui peut être parfaitement délétère, qui peut entraîner énormément de problèmes. Pour en revenir aux cervicalgies, il peut y avoir derrière un problème émotionnel. Donc ça m'est arrivé de le rencontrer. Et on parle de plus en plus maintenant de psychogénéalogie.
Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire?
La psychogénéalogie, c'est quelque chose qui est à la mode depuis quelques décennies. Et maintenant,
Calvi,
on en parle de plus en plus.
Je ne sais pas si c'est Calvi qui a fait une émission là-dessus, non, sur Europe 1.
Je ne sais pas, mais Anne Ancelin a été un des précurseurs. Anne Ancelin Schützenberger a été un des précurseurs en France. Et les recherches, ont commencé aux États-Unis. Et c'est vrai qu'on peut régler énormément de choses. Elle cite par exemple dans son livre le cas, justement, c'est pour ça que ça me ramène aux cervicalgies, de toute une famille qui était... Hommes et femmes, ils étaient tous coiffeurs, s'occupaient de tête, et ils avaient tous, pour la plupart, des minerves. Et les femmes les plus jeunes n'arrivaient pas à avoir d'enfants. Leurs enfants naissaient avec le cordon autour du cou, enfin, il y avait énormément de problèmes. Et en fait, Anne Ancelin Schützenberger, en cherchant, a découvert que c'était...
Un ancêtre qui était pendu, non ?
C'était des Bulgares, je crois, qui avaient émigré et qui avaient vu toute leur famille, la tête de membres de leur famille, au bout d'une pique. Et ça avait suivi les générations. À partir du moment où elle a résolu le problème, effectivement, il n'y a plus besoin de migraine. Donc, nos émotions peuvent aller très très loin. Donc, je cherche en fait à trouver là où les causes, au cours d'une consultation, qui peut avoir entraîné le problème le plus important, ou les problèmes pour lesquels la personne vient consulter.
Et vous cherchez de quelle manière? Vous interrogez le patient?
Je fais d'abord
sur ses antécédents familiaux.
J'interroge d'abord sur tout, c'est-à-dire que je vérifie son journal alimentaire, je vérifie ce qu'il boit, parce que l'eau aussi c'est très important, hein, j'en parle aussi dans mon livre. Les animaux le savent bien d'ailleurs, bon je crois que je ne sais pas si j'ai le temps de développer ça, Mais c'est vrai que l'eau, je lisais dans une revue assez récemment, un vétérinaire qui racontait que il avait un chien, un berger lui avait amené un chien qui était en train de mourir. Ce chien avait des diarrhées et était en train de mourir et il ne voulait pas boire. Et ce vétérinaire raconte qu'il était malheureux, il savait pas quoi faire, il faisait des transfusions d'eau, enfin de plasma à ce chien qui repartait et puis il était à nouveau malade. Et il a eu l'idée, il avait entendu parler de bioélectronique au cours d'une conférence et il a eu envie de, il s'est dit tiens, ben, si j'essayais ça, il a acheté de l'eau de Volvic. Je ne sais pas si on peut citer le nom. Il a acheté de l'eau de Volvic pour le chien. Il a rempli une bassine et le chien a bu, mais alors vraiment de façon hallucinante. Il refusait l'eau du robinet, qui a des paramètres de bioélectronique tout à fait cancérigènes.
Moins bête que la moyenne, donc, ce chien-là.
Les animaux ont un instinct qui est beaucoup plus développé que le nôtre, c'est clair. Donc ça, je vérifie, bien entendu, donc l'alimentation, hein, ça prend un certain temps. Je fais une anamnèse pour voir ce qu'il y a comme maladie, si la naissance a été normale, parce que la naissance aussi est un événement qui peut être, et la vie intra-utérine, peuvent être dangereuses à la fois du point de vue physique par les médicaments qu'a pu prendre la mère. À la naissance, ça peut être des forceps, ça peut être une césarienne. Et sur le plan émotionnel aussi, il y a là encore des recherches de fait qui sont en train de démontrer que les émotions, la façon dont on vit notre naissance peut entraîner des schémas émotionnels répétitifs pour tout le long de notre vie.
Alors, une fois que vous avez fait ce travail, est-ce que c'est le seul outil d'investigation clinique que vous utilisez?
D'abord, je questionne. Je demande aussi s'il y a des cicatrices, parce qu'une cicatrice peut aussi, là, je cite dans mon livre, des cas tout à fait particuliers et franchement étonnants de traitement de maladies assez importantes liées à des cicatrices qui sont restées toxiques. Ce qui ne veut pas dire d'ailleurs qu'une cicatrice est systématiquement toxique, mais qu'il faut en rechercher la toxicité. Donc là, ça fait partie de mon questionnaire. Je demande aussi s'il y a eu des événements émotionnels particuliers. Je vérifie bien entendu les dents. Ça me paraît aussi l'évidence. Bon, c'est vrai que la plupart de mes patients ont un ostéopathe, donc ils vérifient systématiquement. Mais tous les ostéopathes, donc j'insiste là encore dans mon livre sur un élément important que très peu d'ostéopathes vérifient, c'est-à-dire pour les femmes, l'ostéopathie viscérale gynécologique. Elle peut aider à résoudre énormément de choses, de problèmes menstruels.
Des accouchements difficiles ou...
Pas forcément. Vous pouvez avoir des jeunes femmes, des jeunes filles qui ont des règles difficiles. Bon, là, on le fait pas sur des jeunes filles, bien entendu, parce que ça se passe par voie interne. Il s'agit de détendre les ligaments. Ça résout des problèmes, souvent des problèmes de stérilité, d'hémorragie utérine, enfin... mais aussi, ça peut avoir des répercussions, comme tout se tient dans le corps, ça peut avoir des répercussions sur les cervicales, par exemple. Vous pouvez avoir des migraines qui sont liées à ça.
Est-ce que ces méthodes, qui sont des méthodes très originales, très...
Pas assez connues, c'est pour ça que j'ai...
Voilà. Est-ce qu'elles intéressent le corps médical officiel ou pas du tout? Est-ce qu'il y a un rejet? Est-ce qu'il y a une attitude?
Il y en a qui s'y intéressent, mais vous savez, la plupart des... Rares sont les dentistes qui ne posent pas d'amalgame. Hélas, il y a pourtant beaucoup d'articles dessus, beaucoup de recherches. Il y a eu tout un congrès en Allemagne d'où est sorti tout un dossier important et très peu de dentistes en prennent compte. Moi, je tiens compte, je vois encore beaucoup de dentistes poser des amalgames sur des jeunes enfants. Quand on sait ce qu'entraîne le mercure, c'est une catastrophe. Donc, il faut nettoyer ça. Il y a des méthodes.
Il n'y a pas d'autres termes, il n'y a pas d'autres possibilités que.
Ah, si, bien sûr. Oui, il y a. Vous avez les composites, hein, de toute façon. Ça n'est pas complètement parfait, mais ça n'a pas le côté excessivement toxique du mercure, qui est un métal que les homéopathes connaissent parfaitement, d'ailleurs. Il y a toute une symptomatologie reliée au mercure qui est connue depuis des décennies.
Alors, on a l'impression, quand on lit votre livre, que Vous avez fait une espèce de survol, en tout cas, non pas de survol, mais de recherche sur toutes les méthodes.
C'est-à-dire, je continue à en découvrir, vous savez, parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de recherches qui se passent dans ce qu'on appelle la médecine quantique, c'est-à-dire qui est une médecine qui touche aux énergies. Beaucoup de physiciens s'y intéressent. Les Russes, depuis extrêmement longtemps d'ailleurs, traitent des infarctus graves avec des ondes millimétriques et des lasers pulsés. Ils ne désosent pas, ils traitent.
Oui, là, il y a une véritable censure de la part du corps médical officiel sur ces choses-là, parce que ça touche quand même au vitalisme. Et le vitalisme, c'est quelque chose qui est considéré comme l'abomination de la désolation par la médecine officielle. Et il y a même des médecins, flingué leur carrière. Je pense notamment à ce chercheur américain qui a écrit un bouquin qui n'existe, je crois, malheureusement qu'en français. C'était le docteur Plantet qui me l'avait fait découvrir, qui s'appelait le Blueprint. Et donc, le Blueprint, c'est le plan. On appelle Blueprint parce que c'est imprimé en bleu, c'est le plan que les architectes utilisent, ou d'ailleurs, pas seulement les architectes, mais enfin, les gens qui suivent des plans pour fabriquer les choses utilisent ça. Et lui partait du principe que le corps humain, enfin le corps vivant, respectait dans son développement un plan préétabli, que c'était un plan énergétique, et il a fait des expériences. Alors là, je suppose que je vais provoquer la stupeur, l'enragement, les protestations de beaucoup d'auditeurs, mais c'est vrai, il a fait repousser des membres amputés à des souris.
Ah mais oui,
il n'a jamais pu le faire. Hein. À des êtres humains, parce que naturellement ça suppose les gens sont pas disposés à courir un pareil risque, c'est-à-dire ça suppose une amputation franche, et naturellement faut pas reconstituer le moignon, donc c'est très sujet à des accidents graves, mais il est arrivé avec des souris à faire repousser des membres amputés, en partant du fait que si ça se produit chez les lézards, par exemple, où la queue repousse, on ne voit pas pourquoi ça ne fonctionnerait pas avec les pattes d'autres animaux. Donc ça a provoqué pratiquement la fin de la carrière, en tout cas en tant que médecin reconnu de ce chercheur. Et il y a un danger indiscutable. On l'a vu avec l'affaire Beljanski, on l'a vu avec l'affaire Le Ribot. Il y a un vrai danger à explorer des voies nouvelles, aventureuses, évidemment, puisque c'est des voies nouvelles en médecine.
Mais il y a beaucoup de chercheurs, comme Sheldrake, comme un Français qui s'appelle Louis-Marie Vincent, qui ont fait des recherches sur ces champs d'énergie. Ce sont des scientifiques, et ils remettent en cause absolument toutes ces recherches classiques.
Alors, je vois que vous évoquez également l'utilisation de l'effet Kerlian dans les bilans de santé. On avait reçu à cette émission Monsieur Adjo, Georges Adjo, qui fait des bilans de santé avec à partir de recherches qu'il a faites sur l'effet Kerlian et qu'il a développé. Vous avez expérimenté ça. Quel est votre verdict, si j'ose dire?
Mon verdict, c'est que c'est intéressant. Le problème, c'est que ça prend beaucoup de temps. Il faut développer les photos. Enfin, c'est tout plein de manipulations. Donc, je n'ai pas le temps de tout vérifier. Consultation prendrait la journée. Donc, je travaille autrement maintenant. Je cherche ça.
Est-ce qu'il y a une hiérarchie, selon vous, de valeurs dans les différentes méthodes? Par exemple, on a parlé de l'iridologie, on a parlé de...
Au point de vue des bilans?
Oui, au point de vue des bilans. Qu'est-ce qui vous paraît le plus... D'après votre expérience personnelle, qu'est-ce qui vous paraît le plus...
Mon expérience, je suis en train de découvrir encore de nouvelles choses. Donc c'est vrai que... des systèmes de biofeedback informatisés, donc pour le moment...
Qu'est-ce que c'est ça, le biofeedback? Parce qu'on en parle beaucoup, mais on indique jamais vraiment.
C'est-à-dire que l'appareil auquel je pense vous donne une image sur ordinateur avec des couleurs différentes qui marquent si tel organe est en insuffisance, est en état inflammatoire, etc. Mmh. Donc ils vous balancent des informations qui sont répertoriées au départ pour voir comment vous réagissez à partir à ces informations-là. Et donc vous avez la réponse. Et même chaque dent est répertoriée, par exemple. Et j'en ai essayé un récemment chez quelqu'un. C'est vrai qu'au niveau dentaire, c'était intéressant. Je connais un autre appareil qui me paraît encore plus intéressant, mais il y a vraiment autre chose à faire. En Suisse, je connais un bilan aussi informatisé qui est aussi extrêmement intéressant. Donc, il y a différents types de bilans. Vous dire ce qui est mieux... Chacun a ses qualités, donc c'est vrai que c'est difficile de tout faire, mais la bioélectronique vous donne l'état de votre terrain, ce système de biofeedback vous donne une image précise de l'organe. Je crois que c'est à chaque thérapeute de choisir ce qu'il peut faire.
Et parmi les modes de traitement, vous évoquez un traitement qui utilise les aimants. C'est assez à la mode, ça. On voit ça un peu partout. Ça fait quand même un petit peu charlatan par la façon dont c'est vendu, en tout cas.
Bah, voilà. En fait, c'est ça. C'est pour ça que j'ai éprouvé le besoin d'écrire un bouquin sur les aimants il y a 3 ans. Et c'est vrai que j'ai découvert en traitant un paraplégique. Que lorsque je massais des points d'acupuncture dans un certain sens, il ressentait, parce qu'il avait un ressenti de son corps absolument hallucinant, il ressentait si l'énergie passait ou était bloquée. Et je me suis dit, avec les aimants, ça doit être rigoureusement la même chose, il n'y a pas de recette. Et donc, ce qu'il faut, en fait, c'est tester la polarité de chaque aimant. Parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'homme est électromagnétique. Nous sommes un condensé il y a un physicien anglais qui s'appelle Cyril Smith qui a écrit l'homme électromagnétique.
Oui, bon, de toute façon, la matière étant un état d'énergie, on est dans un état de l'énergie qui s'appelle la matière. Donc, c'est vrai que le corps humain ou le corps vivant réagit forcément
chaque cellule est une petite pile, hein, en fait. Il y a un pôle. Il y a une différence de potentiel au niveau membranaire qui permet l'intégrité de la cellule. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais...
Est-ce que vous avez étudié ou examiné le travail des guérisseurs, des magnétiseurs, des choses comme ça? Quelle est votre opinion là-dessus?
Bah écoutez, je n'ai pas vraiment d'opinion. Je pense qu'il doit se passer une résonance entre les deux. De toute façon, le contact entre le thérapeute et le thérapé, si on peut l'appeler comme ça, est fondamental. Donc, à partir du moment où le contact se passe bien, déjà, il y a une possibilité de guérison.
Mais c'est vrai pour tous les médecins.
Absolument.
Si vous avez un mauvais contact avec votre médecin, même si c'est un médecin parfaitement classique, ça ne passe pas.
Mal. Hein. Oui. Mais alors, les guérisseurs, alors justement, je connais un chercheur qui avait pris des kirlians avant et après traitement par un guérisseur. Et en fait, il y avait eu échange d'énergie. Donc, c'était peut-être... Il a fait ça avec un... Donc je n'ai pas réellement d'opinion là-dessus. Je pense que un guérisseur ne convient pas à tout le monde et qu'il a des résonances particulières avec certaines personnes et pas d'autres.
La question des placebos, vous avez réfléchi à ça, l'effet placebo, c'est-à-dire vous ne croyez pas que certaines personnes, en fait, beaucoup de personnes qui ont des problèmes de santé ne sont malades que d'elles-mêmes, si j'ose dire.
Oui.
Et à partir du moment où elles croient avoir trouvé un médicament, elles commencent à aller mieux. Tout simplement parce qu'elles pensent que le médicament est efficace, alors qu'en réalité, c'est...
Absolument, c'est un placebo, mais ça, c'est vrai que c'est connu, ça a été utilisé depuis extrêmement longtemps, le placebo.
Est-ce que ça ne veut pas dire aussi que beaucoup de traitements de médecine naturelle qui semblent fonctionner ne sont pas autre chose que l'application d'un effet placebo.
N'importe quoi, peut-être du placebo. À partir du moment où, vous savez, en fait, on se rend compte que dans la hiérarchie d'arriver des symptômes, c'est le plan émotionnel qui a la primauté. Donc à partir du moment, l'effet placebo fait appel à l'émotionnel. Hein. Donc à partir de, à partir du moment où vous traitez l'émotionnel, vous modifiez vos champs d'énergie. Ça, la médecine ayurvédique et la médecine indienne et la médecine chinoise vont tout à fait dans ce sens-là.
Quelles sont les affections pour lesquelles on vient le plus souvent vous consulter?
Vous savez, je crois que les gens qui viennent sont des gens qui ont tout un parcours, qui ont beaucoup cherché et qui n'ont pas trouvé. Donc ils ont cherché dans la médecine moderne et puis ils ont cherché aussi. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être.
Mais il y a quand même des.
Il n'y a pas de.
Je voulais parler, est-ce qu'il y a des maladies qui sont vraiment des maladies qui ne sont pas susceptibles d'être améliorées par les médecines naturelles, les médecines traditionnelles, les médecines holistiques, et qui relèvent exclusivement, alors je ne parle pas de la chirurgie, mais d'une médecine chimique moderne, comme vous l'avez appelé tout à l'heure. Est-ce que ça existe, ce genre de maladie?
Moi, je pars du principe que. Après beaucoup de lectures et de comptes rendus, c'est pas forcément mon expérience personnelle, c'est l'expérience de médecins qui ont beaucoup cherché, qui ont traité des cancers, etc. Il n'y a pas réellement, je crois, ce qui est fondamental, c'est l'implication de la personne dans son retour à la santé. Si elle cherche une béquille, elle ne retrouvera jamais la santé, parce qu'il lui faudra toujours une, deux, trois béquilles. Là où il y a le plus de résultats, quelle que soit la gravité de la maladie, c'est quand la personne a décidé de guérir. Pas quand elle est tendue vers une guérison, mais qu'elle sait se diriger vers la guérison.
Est-ce qu'il peut vous arriver de refuser un patient, de voir quelqu'un une fois donner un ordre?
Quand j'entends,
je ne veux pas de vous, je veux pas vous soigner.
Déjà au téléphone, quand je vois que la personne est un peu hésitante, vous savez, est-ce que vous croyez? Enfin bon, quand je...
Ça, c'est déjà une démarche un peu bizarre de téléphoner à quelqu'un pour lui dire « je crois, j'ai pas confiance en vous ».
Ah, mais il y en a. Ça arrive quelquefois. Je suis pas la seule. Il y a des personnes qui sont en... qui ont du mal à avoir confiance. Et ces personnes-là, elles chercheront toujours des béquilles. Bon, il m'arrive... je ne donne de toute façon jamais de deuxième rendez-vous. Je laisse la personne faire son propre travail, s'impliquer. Et là...
C'est
quand la personne revient que là, elle sait qu'elle va pouvoir guérir.
Un des défauts, une des faiblesses, je trouve, de la médecine moderne actuelle, la médecine scientifique de pointe, c'est qu'elle a à peu près supprimé la relation personnelle entre le médecin et le malade. Alors, on a l'impression d'avoir un technicien en face de soi qui vous dit « montrez-moi vos examens », il n'y a plus de contact. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que beaucoup de malades se tournent vers les médecines naturelles ou vers les thérapeutes non classiques à cause de ça, justement, pour retrouver un contact?
À la fois le contact humain, mais le contact physique. Parce que si l'ostéopathie et les massages ont tant de succès, c'est parce que justement les gens ont complètement perdu le contact. D'ailleurs, même les gens dans la rue ne se regardent même pas, ne se touchent pas. Quand on touche quelqu'un au pardon, c'est vrai qu'on a complètement... Donc, j'avoue que je suis très dans le toucher, donc
je souviens d'avoir lu un livre d'ailleurs magnifique sur les petits frères du Bronx. Ce sont des franciscains qui vivent dans le Bronx et qui s'occupent vraiment de, on peut dire alors, de la lie de l'humanité du Bronx. Le Bronx, c'est quand même donc le 9-3 dans la région parisienne, c'est Neuilly par rapport au Bronx. Hein, c'est vraiment ces frères qui sont en robe de bure, habillés avec les sandales, pieds nus dans les sandales et tout, ils sont des types magnifiques vraiment, et qui se baladent qui s'occupent des drogués, des prostituées, des enfants abandonnés, enfin c'est l'horreur totale, qui vivent sur des tas d'ordures littéralement. Et le garçon qui a fait ce livre, qui est vraiment un livre magnifique, malheureusement j'ai oublié le nom de l'auteur, je voudrais qu'on me le dise si quelqu'un peut nous appeler, ce garçon avait interrogé donc ses frères, ces franciscains, qui disaient la première chose que nous faisons lorsque nous rencontrons un nouveau contact, enfin un nouveau, entre guillemets, client, c'est que nous le touchons. Nous le prenons dans nos bras, nous lui tenons la main, nous passons le bras autour de l'épaule, etc. Et il disait, ce sont des gens que plus personne ne touche parce qu'ils sont sales, parce qu'ils sentent mauvais, et donc les gens les fuient, ça peut s'expliquer d'ailleurs, et qui sont en manque de contact humain, mais au sens physique du terme. Et ça, vous le constatez aussi, vous ?
Absolument. Les gens ont besoin d'être touchés. Moi, je suis, quand j'ai un patient allongé que je teste, enfin, quand je teste des remèdes, enfin, j'essaye, je suis en contact, je reste en contact permanent. Je trouve que c'est vraiment essentiel.
Quelle est la méthode qui a que votre préférence dans...
J'ai pas de préférence, c'est-à-dire que je prône une synergie de thérapie. Ça peut être, par exemple, pour une cervicalgie, je vérifie les dents, d'abord. Mm-hmm. Je vérifie s'il n'y a pas d'émotionnel derrière. Et puis, je peux faire une petite séance d'ostéopathie très très douce et particulièrement efficace pour essayer, en attendant, d'améliorer.
Je voudrais vous faire revenir à quelques instants sur...
Ou poser des aimants, par exemple, oui. Ou faire des champs magnétiques pulsés. Mmh. Ça dépend de ce qui va être choisi en thérapie.
Je voudrais qu'on revienne un instant sur la psychogénéalogie, parce que c'est une chose qui m'intrigue énormément. Quels autres exemples avez-vous quelles sont vos expériences les plus troublantes en matière de psychogénéalogie ?
Bah écoutez, un œil, une personne qui a eu à l'âge de 57 ans un décollement de rétine, et elle avait, donc quand je l'ai questionnée, une étape précise, elle m'a dit j'avais telle et telle chose à faire, elle avait une pression énorme, pour une date précise, fin juin, et... En réfléchissant, en cherchant, d'abord en testant, on s'est rendu compte que son arrière-grand-père s'était suicidé le jour de la naissance de sa mère, à elle. Et le jour de cette naissance, parce qu'il devenait aveugle. Et le jour de cette naissance, c'était le 27 juin, la fameuse date pour laquelle elle avait tant de choses à faire.
Ouais.
Et c'est vrai que c'est vraiment troublant, parce que...
Mais est-ce qu'il y a des cas... Parce que là, on peut presque comprendre qu'il s'agit d'un phénomène non pas d'autosuggestion, mais d'autolyse, de suicide, parce que on sait qu'il va se produire quelque chose et la pression devient tellement forte que on provoque soi-même je pense qu'il y a beaucoup d'accidents de la circulation, par exemple, qui sont liés au fait que quelqu'un a un rendez-vous auquel il ne veut pas aller, mais il peut pas faire autrement que d'y aller, et sur le chemin, il se fiche en l'air, d'une façon quasi inconsciemment volontaire. Mais est-ce que vous avez des cas où les gens ne le savent pas ?
C'est-à-dire qu'elle ne savait pas à quel âge, d'abord, s'était suicidé ce grand-père. Or, il se trouve que c'était à 57 ans, l'âge au moment où elle avait 57, a eu ce problème. Mmh. Et en fait, c'est une histoire qu'elle avait complètement oubliée. C'est moi qui ai soulevé le problème. Ça lui était complètement sorti de l'idée. Mais...
Quand vous parlez de ça... À des médecins ou des psychiatres,
psychiatres, ceux qui sont ouverts à tout ce qui est psychogénéalogie, c'est clair. J'ai encore un autre cas qui n'est pas le mien, mais celui d'un confrère, parce qu'il a, c'est un cas absolument énorme. C'est un chiropracteur qui lui avait envoyé un patient pour lequel qui avait un problème de douleur dorsale récurrente. Il n'arrivait absolument pas. Pardon. Résout le problème, il lui a dit, j'ai bien l'impression qu'il y a un problème émotionnel derrière. Il a donc cherché, il est arrivé au bout de la quatrième séance à une arrière-grand-mère qui avait été brûlée sous les yeux de sa propre fille en faisant un feu d'herbe. Le feu avait pris dans le dos et la fille avait vu sa mère mourir brûlée. Elle n'avait rien pu faire pour aider sa mère. Et en fait, ça s'était transmis de génération en génération. J'avoue que, bon, au départ, j'étais très sceptique, et maintenant, je reconnais que ça, c'est comme tout ce qui est émotion liée à la vie intra-utérine ou à la naissance ou à la toute petite enfance. C'est vrai que là, on trouve énormément de choses.
Et est-ce que vous pensez que si on fait une investigation sur soi-même ou sur son passé ou sa famille, on peut arriver à résoudre tout seul des problèmes ? Ou est-ce qu'il faut un thérapeute, forcément ?
C'est-à-dire que moi, la façon dont je travaille, c'est impossible. Il faut être testé par quelqu'un. Donc, je travaille d'une certaine manière.
Une fois que vous avez fait cet examen, on ne pourra pas parler d'examen clinique, parce que cette recherche, et que vous avez un résultat, à partir de ce moment-là, quand vous croyez avoir identifié l'origine de la souffrance, Vous recourez à l'arsenal traditionnel des thérapies. Il n'y a pas une thérapie spécialement adaptée à la...
Non, parce que chaque personne est différente. Et c'est ça que sur lequel je veux mettre l'accent dans mon livre. C'est-à-dire que, par exemple, on va reprendre, tiens, pour une douleur. Il m'est arrivé de voir une jeune femme arriver, envoyée par un ostéopathe. Elle était pliée en deux. Bon, et l'ostéopathe me dit, il doit y avoir de l'émotionnel. Je cherche... Et je tombe sur une date, une période, 5-6 ans. Je lui dis, est-ce que ça vous dit quelque chose ? Elle me dit, oui, effectivement. Elle ne m'en avait pas parlé à l'anamnèse. Et en fait, elle me dit, mais je croyais avoir nettoyé ça chez mon psy. Mais en fait, il s'agissait d'un viol. Et là, j'ai simplement traité l'émotionnel. Elle fait une séance tout à fait particulière. Et elle a sorti l'émotion. Et ça fait 6 mois. Et on n'en parle plus. Donc il faut, en fait, ce qu'il faut, c'est être traité au bon moment. Parce que ce qu'elle avait fait chez son psy, ça n'était pas forcément la demande du corps au moment. Donc il faut être vraiment très très précis quand
on traite. Ce qui est très intéressant dans votre livre, c'est que c'est pas du tout un livre de technicien. C'est pas une énumération de problèmes et de solutions ou de propositions de thérapie, etc. C'est un témoignage personnel. Vous racontez votre vie, en fait. Vous racontez comment vous avez découvert comment vous avez engagé cette démarche.
J'ai essayé de faire quelque chose d'un petit peu vivant pour que ce soit pas justement trop technique. Voilà. Mais vous savez, c'est vrai que là, depuis, je reçois des témoignages de gens qui ont des vécus complètement faux. Je vous parlais de vie intra-utérine tout à l'heure, enfin, ou de naissance. Il y a une dame, une psychologue qui m'a écrit. Sa fille, qui a une vingtaine d'années, a d'énormes problèmes. Et en fait, elle était dans son dernier mois de grossesse quand une voiture l'a renversée et lui a roulé dessus.
Ah oui, c'est pas un événement.
Et la fille a parfaitement mal supporté et a toujours eu un tas de problèmes.
Non, mais... Je comprends ça un peu.
Donc...
À sa naissance,
elle était in utero quand même.
Oui, mais oui, mais enfin... Ça...
Mais vous savez, je crois que c'est peut-être pas toujours très facile à comprendre pour un allopathe.
Est-ce que vous avez eu des cas d'enfants mort-nés et ranimés après ? Vous savez,
Non.
Ça serait intéressant.
J'ai eu des cas de naissance extrêmement difficiles, avec des cordons autour du cou, des forceps, des choses comme ça, des gens qui étaient presque asphyxiés, mais pas mort-nés, non.
Mmh. Ça m'intéresse parce que...
D'ailleurs, je cite un cas, là, j'ai fait un chapitre tout à fait particulier sur un cas qui me permet de montrer comment se passe une séance et les réactions au cours de différentes séances. Cette femme, effectivement, a une naissance extrêmement difficile. Mmh. Cordon, elle était en train de mourir, enfin... Et c'est vrai, ça marque pour le restant parce que ça crée... des émotions, des schémas répétitifs, puisque c'est inscrit dans le subconscient. Donc on ne maîtrise pas.
Ce qui est en train de se passer en ce moment dans la médecine en général, mais pas seulement dans les médecines holistiques, mais les médecines naturelles, mais aussi dans la médecine de pointe, c'est que on commence à découvrir que l'enfant n'est pas simplement un bloc de chair animé. J'étais étonné, je regardais un reportage il n'y a pas très très longtemps sur la souffrance des enfants, et où une infirmière expliquait, enfin une soignante expliquait que on commençait seulement à comprendre que les enfants souffraient. Et elle expliquait, parce que les enfants ne souffrent pas comme les adultes, alors que les adultes ils se débattent contre la souffrance, mais les enfants sont prostrés quand ils souffrent. Ils deviennent silencieux, immobiles, comme si toute leur énergie était consacrée uniquement à essayer de, d'affronter cette douleur. Et longtemps, on a pensé qu'ils dormaient ou qu'ils étaient un peu fatigués, etc. Et on a fini par comprendre que les enfants souffrent. Donc, effectivement, ça va un peu dans le sens de ce que vous dites. Alors, on a du mal à imaginer qu'un enfant peut avoir le souvenir d'événements qui se sont déroulés alors qu'il était à peine lucide, enfin à peine né. Mais on a la preuve maintenant que c'est le cas, et ça me rappelle ce qu'écrivait l'abbé Caillon, qui avait fait un livre où il disait « À 4 ans, un enfant est achevé d'imprimer ». Donc, c'est bien la preuve.
C'est là que
si à 4 ans, le travail d'impression est achevé, ça prouve qu'il s'est passé pas mal de choses les années qui ont précédé.
Le professeur Tomatis, qui est décédé
que
maintenant.
Que j'ai reçu ici.
Que vous avez reçu, qui avait fait des recherches justement sur les sons in utero. Il avait essayé de reproduire les sons in utero, en fait. Donc pour lui, il y a énormément de problèmes qui pouvaient se créer. Bon, je fais aussi, pour en revenir à la vie in utero, une recherche sur tout ce que la mère a pu prendre comme remède ou avoir comme émotion, mais comme remède, parce que ça peut entraîner énormément d'effets. Même pour en revenir au mercure. Je connais une femme, d'ailleurs je la cite dans mon livre, elle a eu trois enfants qui n'ont jamais eu d'amalgame, jamais eu d'AXA, et ses enfants sont bourrés de mercure. Ouais. Donc c'est...
Je vous remercie, Daniel Avenel.
Je
recommande la lecture de votre livre parce qu'il est agréable à lire. Il y a beaucoup d'anecdotes, beaucoup d'exemples, il est d'une écriture agréable à lire, je répète. C'est très personnel, vous êtes beaucoup investi, c'est pas simplement un travail de technicien.
Merci beaucoup.
Mais je crois que c'est utile pour comprendre ce qui se passe, ce que c'est aujourd'hui que les médecines naturelles, les médecines non conventionnelles. Et des sujets comme la cristallisation sensible, le test d'Eitan, les drainages lymphatiques, les massages, la kinésiologie, la réflexologie, les aimants, les champs magnétiques pulsés, tous ces domaines sont abordés dans le livre, mais pas du tout d'une façon ennuyeuse, technique, un peu rasoir, au contraire d'une façon très vivante et très illustré par des anecdotes.
Merci.
C'est
beaucoup.
Paru aux éditions du Dauphin, qui font du très bon travail. Qu'est-ce que vous voulez, Mathilde Victoria?
J'ai des questions. Là,
allez-y, posez vos questions.
Existe-t-il un traitement pour supprimer les acouphènes?
Non.
Il y a différents types de traitements. Ça peut être, en revenir à l'occlusion.
Dites-le, docteur Marquis.
Non.
À l'occlusion dentaire, il peut y avoir des problèmes aussi, les cervicales. Mais en médecine chinoise, il y a aussi différentes loges énergétiques qui peuvent être incriminées dans les acouphènes. Donc il y a différents types de...
Ouais. C'est l'horreur absolue.
Je vais rendre un petit hommage au passage à Robert Lamoureux, qui est un vieux monsieur qui est près de nous, qui toute sa vie a souffert d'acouphènes. Et c'était une folie.
On a eu ici un spécialiste des acouphènes qui était venu nous parler de ça, et qui nous disait qu'il y a des gens qui se sont suicidés.
Il y a de quoi devenir
absolument
fou.
Absolument plus supporter cette...
Absolument. Mais on peut, s'il n'y a pas de lésion... C'est pas irréversible.
C'est très mystérieux d'ailleurs, parce qu'en fait, c'est même pas, apparemment, c'est pas lié forcément au nerf auditif.
Non, ça peut être aussi lié à l'émotionnel. Enfin, il y a plein de choses qu'on ne veut pas entendre. Bon, sans faire de la psychologie à la petite semaine, mais il y a toujours une intrication de différents paramètres, en fait, de différentes causes.
D'autres
Daniel
questions.
Daniel Avenel peut-elle nous donner l'adresse où elle consulte?
Ça dépend d'elle. Moi, je n'y vois
pas. Ah, mais de toute façon, je donne mes coordonnées dans mon livre. Donc, je suis à Saint-Germain-les-Corbeilles, mais je n'ai pas donné mon adresse. Je donne mon téléphone. Donc, je peux peut-être
donner un téléphone.
01 69 89 03 96.
Répétez, 01
69 89 03 96.
Sauf quand il y a un conseil de l'ordre qui l'interdit et qui sévit contre ça, je trouve qu'il y a une certaine hypocrisie à dire on donne pas les adresses, parce que le but c'est quand même de rendre service, ça fait gagner du temps, voilà.
Et j'ai rarement vu quelqu'un qui soigne d'aussi charmant, alors à la limite...
oui, en plus, c'est vrai.
Je vais
me sentir malade.
Ouais, je trouve mauvaise
mine. Je vous invite aimablement.
Il a les yeux légèrement exorbités.
À propos de l'eau, si les plantes préfèrent l'eau minérale. Les chats, en revanche, préfèrent l'eau de pluie. La nutritrice vous dit, j'ai été guérie d'une tendinite en 4 séances de magnétisme, mais on m'avait prévenu, si vous n'y croyez pas, c'est pas la peine d'essayer. Et un auditeur, que pensez-vous de l'ozonothérapie?
Alors, l'ozonothérapie, d'abord, c'est un appareil qui coûte très cher, donc je ne travaille pas avec. Ce sont des injections d'ozone. C'est très controversé, donc je n'ai pas l'expérience de l'ozonothérapie. Je ne saurais pas dire. J'ai des amis médecins qui ont eu des résultats, puis qui ont fini par abandonner. C'est assez contraignant, je crois. Mais il y a un médecin sur Paris qui travaille avec. Je crois qu'il a de bons résultats.
Alors là, on vous escroque des consultations, je trouve. Je me suis fait faire un bridge il y a 6 mois et on a dû scier 2 dents saines. J'ai encore une gêne. Qu'en pensez-vous, docteur?
Probablement que ça très bien.
Allez voir le docteur Rivolier, dont je donne l'adresse de la fin de mon livre, qui est à Saint-Maurice, qui est un dentiste absolument remarquable et qui est vraiment au fait. Alors, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que les dentistes énergéticiens sont de bons énergéticiens, mais rarement d'excellents techniciens. Donc, ce qu'on demande à un dentiste, c'est d'être un bon technicien. Donc, le docteur Rivolier connaît bien les médecines alternatives, mais c'est un technicien hors pair. Moi, c'est tout ce que je lui demande. Donc, il vérifie, après chaque séance, l'occlusion de son patient. Et il collabore avec beaucoup d'ostéopathes. Donc, pour moi, c'est... Oui. On ne peut pas trouver mieux donc que cette personne aille voir le docteur Rivolier. Je crois que c'est la même.
Je voudrais quand même lire un message qui montre que, vous voyez, on a quand même des auditeurs qui s'intéressent. Il y a un auditeur qui est il va devenir une espèce de collaborateur extérieur à l'émission, parce qu'il nous écrit beaucoup. Il dit, dans une précédente réincarnation, j'étais boa, et dans celle d'avant, j'étais trombone à cou lisse. Ça intéresse notre ami Chabrier, qui est musicologue. Les trombones à cou lisse, vous connaissez? Et non pas à cou rugueux, bien entendu. Et pensez-vous que cela puisse expliquer les problèmes actuels de cervicales? Donc, je pense aussi, moi, que ça doit... C'est même pas, à mon avis, ce monsieur n'a pas seulement des problèmes de cervicales, ça se passe à un niveau un tout petit peu supérieur. Non, mais c'est une plaisanterie, bien sûr.
Un auditeur relaie la médecine officielle pour vous dire, contre les acouphènes, 5 gouttes de Rivotril par jour,
oui,
le
absolument.
Matin, c'est radical.
Un auditeur pas dans tous les cas.
Mais attention, neurones, là.
Le Rivotril, ah, c'est oui. Bien, mais...
Attention, neurones.
Le goutte d'acide sulfurique aussi, ça règle le problème.
Toujours dans le cadre...
5 grammes de plomb, c'est très bien.
Toujours dans le cadre des consultations, quand je bois un liquide glacé, je ressens une violente douleur à l'œil et derrière la tête.
Ah ben moi, c'est pas là.
Peut-il être dû à un problème dentaire?
Mais sans doute, mais...
Il y a des choses. C'est possible, mais de toute façon, moi, je dirais à cette personne, un médecin chinois lui dirait qu'il ne faut jamais boire glacé, parce que toute l'énergie que met votre corps à réchauffer tout ça, c'est pas vraiment génial.
Serge Becquet, tout à l'heure, vous avez parlé d'un livre, vous cherchiez le titre, c'était « Des fleurs en enfer », écrit par Luc Adrien.
Luc Adrien, c'est ça, « Des fleurs en enfer ». Très, très joli livre sur les franciscains du Bronx.
Et alors, je redis, parce que 3, 4, 5 auditeurs l'ont demandé, le nom de l'auteur, Daniel, avec 2 L, Avenel, A-V-E-N-E-L, le titre « Une approche méconnue des médecines alternatives ». C'est aux éditions du Dauphin et ça vaut 15 euros. Si vous souhaitez aller en consultation, vous pouvez téléphoner au 01 69 89 03 96. Voilà, c'est tout.
Merci, Madame Avenel.
Merci à vous.
Et puis merci aux éditions du Dauphin qui font du très bon travail. Moi, je trouve que ce sont les éditeurs.
On va quand même dire que Madame est blonde et ça va quand même arranger pas mal d'affaires.
Oui, ça ne peut pas faire de mal, effectivement. Ça ne peut d'ailleurs que améliorer la réputation des blondes.
Oui, voilà.
Ça va. Les éditions du Dauphin, je vais quand même donner l'adresse si vous voulez demander un catalogue. C'est 4345 rue de la Tombissoire, 75014 Paris. Et faites-moi la grâce de croire que toute cette publicité est absolument gratuite. Ça durera moins longtemps que les impôts, mais pour l'instant, c'est comme ça. Voilà. Madame Iskarda, Iskarda, Mesquida, Iskarda, parce que je pensais pied noir, Iskardo, etc. Madame Mesquida, Vous avez écrit un livre très beau qui s'appelle « À la porte de l'Oued ».
Merci.
Qui est une, c'est une, vous racontez votre vie de petite fille.
Voilà.
En Algérie, au moment où, comme je l'ai dit, il aurait mieux valu passer sa vie de petite fille ailleurs. Alors, je veux tout de suite faire économiser des jetons de téléphone à certains auditeurs qui, chaque fois qu'on parle de l'Algérie, téléphonent en disant « Vous commencez à nous... » Mmh. Oui, avec l'Algérie. Je voudrais leur dire que là, il s'agit de l'Algérie, c'est un cadre. Il s'agit surtout des mémoires d'une petite fille qui a vécu une tragédie. Et puis, une tragédie qui pourrait se répéter avant qu'il soit l'heure d'un cochon de lait. Si j'en crois un sujet qu'on traitera tout à l'heure avec Jean-Claude Chabrier, qui revient du Kosovo et de Metoki, et qui a pu vérifier les effets bénéfiques, non pas des chances pour la France, mais des chances pour le Kosovo et la Metoki, sur place. Notamment, alors eux, en ce qui concerne la laïcisation du paysage, ils ont trouvé la solution, ils font sauter les églises, et ça résout beaucoup de problèmes. Mais là, ça c'est ce qui se passe aujourd'hui au Kosovo et en Metoki, et avec Madame Mesquida, Françoise Mesquida, on va évoquer ce qui se passait il y a 40 ans dans cette province de France qui s'appelait la province d'Alger.
Oui.
Vous aviez quel âge ? Alors, c'est très indélicat, mais...
Non,
qu'est-ce qu'on voulait que je fasse ? Et si je prétends que cette dame n'était pas née à l'époque des événements d'Algérie, et qu'ensuite je prétends qu'elle raconte sa vie, on va me prendre pour un fou.
Oui.
Alors, comme elle était petite fille, on peut le dire.
Oui, mais à quel moment ? Quand j'ai quitté l'Algérie ?
Au moment du drame, la tragédie se produit.
J'avais 12 ans.
Donc, voilà une petite fille de 12 ans qui raconte dans son... Enfin, c'est une dame qui raconte les souvenirs d'une petite fille de 12 ans.
Et mon premier souvenir remonte d'ailleurs à 1954, quand la guerre a vraiment éclaté. Voilà.
Et je voudrais attaquer, si j'ose dire tout de suite, le drame, la clé de la tragédie.
Bah déjà,
un matin, on habille toute la famille pour partir. Enfin, votre père s'habille pour partir.
Il y avait eu un tract dans la boîte aux lettres qui demandait à tous les Algérois de venir manifester pacifiquement, parce que les forces de l'ordre, il y avait le ghetto de Bab El Oued, les forces de l'ordre avaient encerclé Bab El Oued et ça faisait 3 jours que ça durait déjà. Et puis, ils étaient à la recherche de membres de l'OAS, et ces gens mouraient de faim. Il y avait des blessés, parce que l'armée française tirait de partout. Et il n'y avait pas de secours. Donc, papa et
l'armée
maman...
L'armée française, je pense qu'il faut, bien insister là-dessus. C'était pas l'effet de la guerre qui tirait sur la foule.
Ah non, française. C'était Bab El Oued. Donc, on demandait... ce tract... mes parents pensaient d'abord, comme beaucoup de pieds noirs, que c'était un piège. Donc ils ont beaucoup hésité avant de se rendre à cette manifestation pacifique. Alors, et puis nous, on était enfants, on avait envie qu'ils y aillent, parce qu'évidemment, quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Et donc ils ont décidé d'y aller, et je pense que c'est ça qui a perdu maman, parce que en fait la fusillade a éclaté en fin de cortège et papa et maman, s'ils étaient partis beaucoup plus tôt, se seraient trouvés en début de cortège et quand la fusillade a éclaté, ça a été dans le dos des gens.
Ouais.
Voilà. Et c'est une fusillade qui a duré 12 minutes, sans interruption. Un coup de feu serait parti d'un toit, dit-on. À la limite, moi, je pense que ça peut être un signal de départ pour déclencher cette fusillade. Et sans interruption, dans le dos des gens, et beaucoup ont été achevés à bout portant. Voilà. Alors, pour un coup de feu qui est parti d'en haut, une riposte qui dure 12 minutes, ça me paraît long, et papa le dit dans son témoignage, pour lui, ça a été une éternité. Maman a pris une balle 5 minutes après le début de la fusillade. Elle en a pris deux, d'ailleurs.
Et puis, bon, elle est morte 5 minutes, je veux dire, après le début de la fusillade. Et puis, ben, on a eu pendant le mois, parce qu'on est resté, on est parti un mois à peu près, on a quitté Alger un mois après. Il y avait ces photos de la morgue, dont une qui représente le corps de maman, avec l'impact de la balle au sein gauche, et on a eu droit. Et c'est vrai que un monsieur le disait je le répète dans le livre, ces photos de l'horreur, c'est en France qu'on aurait dû les afficher. Mmh. Parce que nous, en Algérie, l'horreur, on la connaissait. C'est vrai que quand on est enfant, on pense pas que ça peut, le malheur peut frapper à votre porte. Et c'est ça qui a rendu aussi, qui m'a rendu, si vous voulez, j'ai réalisé, si vous voulez, à l'âge de 12 ans, bon, on était 4 filles, 10, 12, 13, 14, je crois qu'on a vraiment pris conscience que la vie était vraiment quelque chose de fragile et qu'elle pouvait vous être supprimée. Ce livre, je l'ai porté, je tiens à le dire, ce livre, je l'ai porté en moi pendant 40 ans. Hein. Enfin, je n'arrivais pas à l'exprimer, j'adore écrire, mais je parlais de toute autre chose et jamais de ça. Et je me disais, un jour, il faudrait que j'écrive. Et puis, il a fallu, pour les 40 ans, que Monsieur Poivre d'Arvor, je crois, sur TF1, invite une dame qui s'appelle Nicole Ferrandis et que mm-hmm. vous connaissez pour l'avoir reçue. Voilà, et qui a une association, les familles des victimes. Et donc, elle est intervenue pour parler. Et puis, pour nous, ça a été vraiment un choc. Je me suis dit, mon Dieu, 40 ans déjà passés, parce qu'entre nous, on n'en parlait plus, c'était tabou, c'était, et puis on n'avait pas envie de réveiller la douleur de l'autre, donc on n'en parlait plus. Et d'ailleurs, mes enfants ont vraiment découvert l'histoire en lisant mon livre. Et donc, en voyant cette dame qui a perdu sa sœur ce jour-là, et deux autres de ses sœurs ont été blessées, je me suis dit, il faut que j'écrive. Et pendant 4 mois, je me suis attelée à l'écriture de ce livre. C'est vrai que ça m'a, je ne voulais plus toucher à cette enfance parce que ça m'a me ramené irrémédiablement à ce malheur. Donc, je veux dire, j'avais peur que ce malheur me porte encore malheur.
Ce que vous dites là, c'est quand même extraordinaire. Enfin, c'est énorme. Ça veut dire que dans votre vie d'adulte, vous ne vous êtes jamais retourné vers votre enfance pour ne pas être confronté cette tragédie de nouveau.
Les photos de maman étaient enfermées dans une boîte. Je ne sortais plus les photos. C'est bizarre, je peux pas l'expliquer, mais c'est comme ça. Et je veux dire, il a fallu que j'écrive ce livre pour affronter cette horreur. Et ça a été l'écriture, c'est vrai que ça m'a porté, parce que ça m'a fait du bien. Je veux dire, je suis peut-être la seule de mes sœurs à mieux se porter aujourd'hui, parce qu'il a fallu que je l'écrive, mais il a fallu le lire et le relire, hein. Mais en même temps, ça a été vraiment très très douloureux. Mais je voulais qu'il soit le plus vrai possible. Donc je me suis dit, revivre, tant pis si c'est douloureux, mais retourner à cette tragédie et pouvoir extirper toute cette douleur. Et surtout, c'était ce qui a été dur, c'est que On a assassiné ma mère, mais ce jour-là, on a assassiné aussi mon père. Parce que mon père, c'était un pied noir espagnol et qui exprimait, ce que je dis souvent, il exprimait soit la colère ou alors soit le rire. Et jamais, jamais une larme, jamais. Et là, quand papa est rentré seul à la maison, soutenu par des hommes, c'est un petit garçon qu'on a eu en face de soi.
Ça, vous avez le souvenir de cette scène, vous la voyez?
Ah oui, oui, elle restera gravée. Mais je vous dis, le fait d'être replongé dans ses souvenirs, j'avais l'impression que 40 ans se sont effacés. J'étais complètement dans l'Algérie. Je rêvais de l'Algérie. J'ai retrouvé les odeurs, les sensations, les couleurs. J'ai senti la chaleur. Ça a été vraiment un moment très fort, cette écriture, et j'ai revécu. J'ai des souvenirs que j'avais complètement oubliés et qui ont ressurgi.
Oui, alors il faut dire d'ailleurs que j'ai voulu qu'on commence sur la clé dramatique du livre, mais c'est pas un livre de lamentation, pas du tout, du tout. C'est un livre
d'expression,
de souvenirs ravissants. Il y a des, on rit beaucoup dans votre livre.
Oui, j'adore.
Avec vos sœurs, on voit que vous vous amusez follement. Mmh. On voit très très bien ce que pouvait être l'ambiance de la vie à Alger, les relations entre les Arabes et les Européens, des relations simples. Enfin,
il y avait pas de problème. Papa était instituteur, il a enseigné autant aux musulmans qu'aux Européens.
Et on voit vivre le petit peuple, on voit les petits commerces, les espèces de petites boulangeries.
Monsieur Guigui, j'ai changé les noms.
C'est très très vivant, c'est une chronique du petit peuple d'Alger. Alger, qui est vu par une enfant en plus, parce que vous avez gardé le regard de l'enfant. Mm-hmm. Et si on fait abstraction de cette horreur, qui est la mort de votre mère, le livre, ça pourrait être une très jolie chronique, presque pagnolesque, de la vie d'Alger. Est-ce que vous avez... Alors, deux questions difficiles. Si elles vous gênent, vous me le dites, et puis on passe à autre chose. Est-ce que vous avez gardé de la colère ou de la haine ou du ressentiment?
Alors, c'est vrai que c'est en moi. Tous les jours, c'est vrai que je n'ai pas passé un jour sans penser à ma mère. Et il y a quelque chose, je me dis, comment aurait été ma vie avec elle? Et c'est, je veux dire, c'est vrai que j'ai porté ce chagrin en moi. Il est encore là, hein, il sera, je veux dire, je suis capable de rire. Hein. D'abord, j'adore, c'est vrai, quand j'écris, m'amuser avec l'écriture. Mais je me dis, qu'est-ce que... Maintenant, c'est de la colère. Maintenant, c'est de la colère parce que d'abord, je vous remercie de m'inviter parce que moi, j'aurais aimé que tout le monde m'invite. La France a l'air de s'apitoyer. Je me disais, mon Dieu, mais cette histoire, papa voulait la crier au monde entier. Aujourd'hui, je vais l'écrire puisque tout le monde semble s'apitoyer sur le sort des... La France a les mains pleines de sang et aujourd'hui, je suis heureuse de pouvoir le dire. La France a assassiné une centaine de Français le 26 mars 1962 sur la Grande Poste. Je suis désolée d'être obligée de rabâcher, mais on a besoin, moi j'ai besoin d'une reconnaissance. Voilà, une reconnaissance de la responsabilité de l'État français. Monsieur Chirac, la France a les mains pleines de sang. Est-ce que je vais mourir sans entendre un pardon? Ma mère est morte avec d'autres innocents. Ma mère était française. C'était une Française de Charente-Maritime. Et là, je parle par ce silence. Il y a eu crime. Mais c'est pour moi une double iniquité d'un crime sous silence. Et pour moi, je dis qu'un jour, il faudra rendre des comptes. Alors, si ces comptes ne sont pas rendus sur Terre, c'est en face de Dieu, parce que je crois en Dieu, et un jour, Monsieur Chirac et bien d'autres encore qui portaient la responsabilité de ce crime, si vous ne l'avez pas commis, mais bon sang, reconnaissez-le, parce que nous n'en pouvons plus. Voilà. Et je peux vous le dire, peut-être la seule de mes sœurs à me porter bien. Nous sommes suivis par des psychiatres, et vous pouvez imaginer l'état de mes autres sœurs. Et je ne parle que de nous. Et j'imagine fort bien, pour les avoir rencontrées, je peux vous dire, l'état des autres familles, c'est pas mieux. Voilà.
Françoise Mesquida, je vous remercie. Voilà, je vous ai laissé parler.
M'exprimer, parce que je crois que
vous avez dit tout ce qu'on... tout ce qu'on pense, tout ce qu'on pouvait dire et, sur cette question. C'est vrai quand on voit aujourd'hui les autorités de l'État se prosterner et multiplier les repentances sur tous les sujets, oui, sauf sur celui-là, où là vraiment il y a une responsabilité.
Pourquoi ?
Eh bien, oui, on se demande pourquoi. Moi j'ai la réponse, mais je ne peux pas, oui, la dire à la radio.
Oui, parce que c'est voilà, ce que je veux dire. Parce que si on pourquoi les Pieds Noirs demandent l'ouverture des archives ? Il me semble que peut-être ils n'ont rien à se reprocher. Pourquoi l'État interdit cette ouverture ?
Eh bien, on connaît la réponse.
On connaît la réponse. Je vous remercie de m'avoir permis.
Votre livre s'appelle « À la porte de l'Oued ». Il est paru chez L'Harmattan dans la collection Graveurs de mémoire. Et on fera une annonce juste après l'interruption de 19h30 parce que vous avez une signature
demain. Est-ce qu'on le trouve en librairie ?
Oui, on le trouve en librairie aussi.
Merci de passer votre soirée en notre compagnie. Je vous rappelle que nous avons rendez-vous tout à l'heure à 21h pour la soirée musicale avec série jazz, des musiques de films et un pianiste à l'honneur ce soir, Philippe Entremont. Voici maintenant la seconde partie du Libre Journal de Serge de Beketch. Vous écoutez Radio Courtoisie, les 19h30. Radio Courtoisie,
la radio libre du pays réel
et de la francophonie. Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national. À Paris sur 95,6 MHz, à Caen sur 100,6, à Chartres sur 104,5, à Cherbourg sur 87,8, au Havre sur 101,1, au Mans sur 98,8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord, sur le bouquet satellite TPS et pour le monde entier, sur le site internet tv-radio.com. Vous écoutez le Libre Journal de Serge de Beketch avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 7 juillet 2004 de 18h à 21h, en différé jeudi 8 dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce Libre Journal est réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Elle comprend l'abonnement annuel au courrier de Radio Courtoisie. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85 ou par télécopieur au 01 46 51 21 82.
Bien, nous sommes à l'antenne, ma chère Victoria.
Excusez-moi, je fais un grand discours encore une fois. Oh, je suis pas dans ma forme.
Alors, des fleurs en enfer, c'est Luc Adrian, Fioretti du Bronx, donc les franciscains du Bronx. C'est édité aux presses de la Renaissance. Alors, puisqu'on me le donne, je vais communiquer le numéro ISBN. J'aime beaucoup communiquer les numéros ISBN. C'est 2, ce qui est normal pour un livre. 2, 85, 616, 725, X. C'est le X qui est important. 2, 85-616-725-X. C'est un très joli livre, vous verrez, avec des personnages, on dirait des hippies, un peu, ils ont un côté hippie, mais hippie costaud, vous voyez. Et avec c'est des franciscains comme ça, ça va, j'en demande, ils sont bien. Alors, on reçoit quelqu'un qui n'est pas du tout un franciscain, on va lui donner la parole dans 5 minutes, mais avant, vous voulez dire quoi?
L'auditeur, avant de s'en aller, le docteur Avenel a confirmé à l'auditeur qui lui demandait que le docteur Rivolier de Saint-Maurice est bien celui qu'elle a recommandé.
Oui, mais... enfin, bon, après tout, il se débrouillera, mais est-ce que... Oui, il faut quand même que je précise
dans
que le docteur Rivolier n'est pas... n'est pas demandeur dans cette affaire. Son nom a été cité, mais c'est à l'insu de son plein gré. Qu'est-ce qui dit ça déjà, à l'insu de son plein gré? Qui est cycliste ici?
On ne sait pas.
Virenque. Ah ben c'est vous qui faites du vélo?
Je vous en prie.
Bon, alors, d'abord, quelques nouvelles intéressantes. Il faut que je revienne à Madame Mesquido qui signe demain. Il n'y a rien à faire. Mais alors, c'est bon, jusqu'à la fin de vos jours, si
bon, alors le plus
si
longtemps possible.
Assez vieux, le plus longtemps possible, je vous appellerai Madame Mesquido, ça c'est sûr. Vous signez demain. C'est demain?
Oui.
Votre livre à la librairie
de 15h30 à 18h30, je crois. 15h à 18h30.
15h à 18h30 chez. C'est le petit pont.
Le petit pont.
Rue du Petit Pont. Français, bien sûr. 6 rue du Petit Pont, dans le 5e arrondissement.
La meilleure librairie de Paris, à l'exception de toutes les autres, pas de toutes les autres, mais des autres.
Là, vous avez une force de celles qui seraient mieux, mais on ne les connaît pas.
Si, il y a Guettier qui est bien aussi.
Il y a Duquesne, il y a des très bonnes librairies sur Paris.
Là, vous avez une telle force que d'un seul coup, je suis surpris de voir aussi timide pour vous annoncer. C'est plutôt sympathique, mais je trouve ça curieux.
Bien, et bien alors, on ira. Alors, votre livre, on le trouve en librairie, puisque c'est l'Harmattan, c'est très bien distribué,
oui.
L'Harmattan. Mmh. D'ailleurs, c'est un très bon éditeur. Hein.
Oui,
c'est,
merci.
Vous avez une espèce de consécration d'un seul coup, là, parce que c'est pas des petits éditeurs, c'est pas du compte d'auteur. C'est un bon éditeur courageux qui travaille très bien.
Alors, je rappelle donc, pour les auditeurs qui aiment qu'on épelle, qu'il s'agit de Madame Françoise Mesquida, M-E-S-Q-U-I-D-A. Le livre s'appelle « À la porte de l'Oued » aux éditions de l'Harmattan, donc on peut trouver en librairie. Mais en plus, si vous voulez un livre dédicacé, vous en faites la demande à Madame Françoise Mesquida, boîte postale 50 83 220 Le Pradet. Vous envoyez un chèque de 19 euros et vous recevez votre livre dédicacé, en suivi donc de telle façon qu'il vous arrive bien.
Ou si vous le voulez dédicacé, vous allez demain à la librairie France Livre.
Si vous ne pouvez pas aller à la librairie France.
Est-ce qu'on peut dire un mot? Ben là, vous avez été émouvante et ça, tout le monde le sait. Vous avez tiré les larmes, je vous le dis.
Merci.
Parce que bon, ça remue tellement de choses. Mais on va dire aussi que madame est très très belle et que ce soir, on a eu beaucoup de chance.
Mais enfin, ça va changer parce que.
Oui, là, ça va s'arranger.
Jean-Claude Chabrier, qui quand même, plan.
Évidemment, c'est pas tout à fait pareil.
Comme objet sexuel, c'est assez moyen, faut bien dire. Je voudrais pas vous faire de.
Ce n'est pas avant que je me présente. Parole. Non, mais là, j'ai pas droit au micro pour le moment. Je suis en coulisses.
Parlez.
Mais non, mais si je suis en coulisses.
Pardon de vous avoir engagé dans une soirée.
Chose plus ou moins scabreuse.
Qui bien entendu.
Est en train de.
Préférence plutôt plus.
Virer à l'autre boudin.
Très mal. Alors, je vais donc me racheter tout de suite en donnant les résultats des baccalauréats dans les 2004 dans les écoles de la fraternité.
Saint-Pilice.
Oui. Pourquoi il y en a une autre?
Mais oui.
Au cas où il y aurait tromperie sur la marchandise, c'est la fraternité Saint-Pilice.
La fraternité Saint-Pilice, la seule la bonne. Alors, 61 candidats. Bah, déjà, c'est pour un exploit, parce que n'importe qui... Bon,
le
61 reçu, quand même. 100%, c'est mieux que Jospin. Jospin, il promettait 80%. La fraternité Saint-Pilice, elle tient même les promesses que Jospin a faites, et en mieux. 100%. 33 mentions. quatre mentions très bien.
Oh,
on va donner les noms, tiens.
Parce bah oui,
il faut les honorer. Il faut les honorer, je pense.
Alors, ces jeunes gens s'appellent Louis Gélineau, de Saint-Michel de Nierne, Pierre Mouroux de Saint-Jean-Baptiste de Camblin-l'Abbé, Jacques Perron de Saint-Michel de Nierne et Vincent Ribe de Saint-Joseph de Montréal de l'Aude.
Ah,
pas beaucoup de filles, hein.
Ah non, c'est, nous n'avons que des écoles de garçons, là.
Donc, ah bon, vous, la femme, c'est les trois cas.
Non.
Kirche, Kitchen, Knaben.
Non, ce sont les religieuses dominicaines qui s'en occupent.
Ah bon, d'accord. Mais c'est quand même la fraternité.
Oui, mais c'est, bon, ça, non, c'est pas tout à fait la même
c'est
chose.
C'est la même branche.
Voilà, donc ce n'est pas leur résultat.
Bon, ils doivent être très bons aussi.
Ah oui, ils sont excellents.
Donc 4 mentions très bien, 7 mentions bien et 22 mentions assez bien. On est dedans.
Peut pas mieux faire.
Alors là, moi j'aurais peut-être réussi mon bac si j'avais été là, au lieu de me contenter du BEPC. Voilà, vous voulez parler tout de suite ou qu'est-ce qui vous dit
peut-être.
Parce que comme vous êtes on vous doit le pas, donc si non, vous voulez parler maintenant, puis après on vous libère.
Comment on appelle ça? Le plus ancien dans le grade le plus élevé.
Ça, dans ce grade-là, vous n'avez pas beaucoup de concurrence autour de cette table. Alors, ce numéro de fidélité.
Alors, attendez, je donne d'abord une petite chose avant, c'est Sainte-Thérèse, l'église Sainte-Thérèse, ouais. Je rappelle.
Vous avez vu qu'on a fait un très bon papier dans le livre journal 4 Place France Litz.
Exactement, dans le numéro 326 du 25 juin de cette excellente revue qui s'appelle le Libre Journal de la France Courtoise, dirigée par un excellent journaliste de radio, de télé.
C'est ma femme qui dirige. Voilà. Moi, je ne suis qu'un exécutant.
Vous pouvez nous rappeler le prix de l'abonnement, monsieur Labbé.
Voilà, 110 euros, je crois.
Merci beaucoup.
Voilà. Et donc, il y a un très bel article sur, effectivement, l'église de Sainte-Thérèse de Compiègne. Donc, je rappelle ce dont il s'agit. C'est une église que nous avons achetée à Compiègne et qui est actuellement en pleine rénovation. Donc les travaux sont là en plein feu. Donc les murs, on démolit des endroits, on remonte des murs, on rénove le toit, on prépare le clocher, etc. Et l'inauguration.
C'est quand même curieux cette manie des prêtres et des religieux de construire.
Attention, là non, c'est une église qu'on a rachetée, nous on la rénove. Hein.
Oui, mais enfin à construire, rénover.
Voilà.
C'est bizarre. Ça.
Voilà.
Ça tient à quoi?
Ah, ça c'est vrai.
Il n'y a plus d'énergie. À... Voilà. Ah, c'est la truelle. Oui, c'est
voilà.
C'est que les autres n'auront pas donné les églises.
Voilà.
Ils sont bien obligés de les trouver ou de les rafistoler.
Ils font des belles choses. Hein.
Voilà. Donc l'inauguration est prévue en janvier 2005 et simplement nous avons besoin pour payer tous ces travaux, bien sûr, toute la communauté est largement mobilisée, mais nous avons besoin de 200 000 euros. Donc nous lançons un petit appel. En passant, on ne demande pas... Bon, si quelqu'un nous donne un chèque de 200 000 euros, on l'acceptera parce qu'on refuse jamais les cadeaux. Mais disons que
ouais, même si... On va passer un accord. Moi, je vous fais un chèque de 200 000 euros et vous ne vous l'encaissez pas.
Voilà, c'est ça.
Ça, tout va bien.
Et donc j'appelle un petit peu à nous aider. Je pense que vous avez vu, hein, donc l'église Saint-Éloi à Bordeaux est ouais. L'objet actuellement d'un lâchage par Juppé, hein, qui vient de faire voter l'annulation de la... Donc là, ils sont un peu en difficulté. Mais enfin, avec l'abbé Laguérie, je pense que...
Oui, c'est Juppé qui a des soucis à ce point.
Voilà, ils sont pas. Mais enfin, bon, au moment où quand même on est attaqué de toutes parts, eh bien, n'hésitez pas à nous aider. Donc, je redonne l'adresse. Donc, c'est Église Sainte-Thérèse, BP 40-201, boîte postale 40-201, 60-202, Compiègne-Sedex. Église Sainte-Thérèse, BP 40-201, 60-202, Compiègne-Sedex. Et les chèques sont à l'ordre de l'Église Sainte-Thérèse. Donc ça, c'était une petite annonce religieuse. Maintenant, passons à l'édition, n'est-ce pas? Donc le Fidélitaire numéro 160 de juillet 2004, qui vient de sortir. Donc nous avons un gros dossier sur le cinéma, la télévision, la vidéo, hein, et nous proposons donc vraiment un jugement catholique et nuancé. C'est pas toujours facile à mettre les deux en même temps. Donc un jugement.
Pourquoi vous me regardez?
Un jugement catholique et nuancé sur cinéma, télévision, vidéo. Et je pense que notamment les familles, eh bien, seront heureuses d'avoir vraiment une approche vraiment à la fois vraiment catholique et vraiment nuancée.
Il faut quand même rappeler l'existence de Rock, de nos amis de Rock, voilà. Qui font depuis des années un excellent travail avec leur revue de programmes de télévision et de cinématographe.
Voilà, mais attention, ici, c'est plutôt les principes qui doivent nous guider, et ensuite, il y a l'application avec des gens comme...
Dans Rock, il y a toujours, depuis l'origine, il y a toujours un éditorial de Une qui s'intéresse au cinéma sur les principes.
Voilà ça.
Et sur la technique, et sur la valeur morale et le danger du cinéma. Car le cinéma, c'est comme tout. Ça peut être une merveille, comme ça peut être une
véritable. Nous avons notamment une interview de Charles Rambaud qui a fait un très bon livre qui s'appelle Regardez voir, que je conseille.
Excellent.
Et dans cette interview, il nous explique comment regarder un film, parce que souvent on regarde comme ça, sans le décrypter, sans le comprendre et sans tirer tous les fruits. Donc, dans ce même fidélitaire, des réflexions par l'abbé de Cacré, supérieur de district, sur l'engagement des catholiques en politique. Je pense que c'est important, parce que souvent on est un petit peu dans le flou. Un petit compte-rendu du pèlerinage de Pentecôte. La suite du voyage du docteur Dickes en Asie, qui est très drôle, parce que tout ce continent asiatique extraordinaire, et en même temps ce que font nos confrères, qui font vraiment un travail, ils sont très peu, mais ils font un travail formidable. Également,
un pays où tout est possible.
Voilà. Et également, un hommage, bien sûr, au Crabe Tambour, à l'occasion bien du cinquantenaire de Dien Bien Phu, en rappelant comment il a sauvé ces centaines de milliers de catholiques du Tonkin, comment s'est déroulée cette opération extraordinaire. Et également, une interview de Lugan, donc quelqu'un qui intervient. Bernard Lugan, c'est un jeune historien d'Afrique, sur l'Afrique,
une émission de radio.
Oui, qui a une émission de radio, je crois.
Oui,
une émission de radio. Et donc, sur son livre sur le Rwanda. Et puis, Jean-Baptiste Chomeil qui nous parle de Jacques Perret. Surprise, bien sûr. Voilà. Donc voilà. Donc c'est ce numéro de Fidélitaire 160 de juillet 2004. Et l'abonnement découverte pour ceux qui veulent s'abonner.
On charrie Chomeil parce qu'il parle toujours de Perret, mais il faut dire qu'il en parle
très bien.
Merveilleuse. On a l'impression que c'est une espèce de petit frère. Il a le même genre d'esprit, vous avez remarqué.
Ah non, mais ça c'est...
La même fidèle,
il devrait, et je lui lance un petit message, il doit écrire sa biographie de Jacques Perret, et s'il ne l'écrit pas, il trahit la mémoire de Jacques Perret. Jean-Baptiste, si tu m'écoutes, écris la biographie de Jacques Perret.
Je crois qu'il aura intérêt à se dépêcher, parce que j'ai entendu parler d'un projet concurrent.
Pas concurrent, ami.
Ami, mais ami, on n'est pas obligé de se taper dessus.
Je pense qu'ils travaillent un petit peu ensemble.
Ah bon, alors ça va.
Donc abonnement découverte à Fidélitaire, 33 euros. Donc pour 6 numéros dans l'année, c'est un bimestriel, à Clovis, boîte postale 88 91 152 Étampes. Clovis, boîte postale 88 91 152 Étampes, si on veut téléphoner, c'est le 01 69 78 30 23. 01 69 78 30 23. Le dernier livre que nous venons de faire paraître aux éditions Clovis, je le remets à Monsieur de Beketch, qui pourra le lire au long de ses longues soirées.
Une passion pour Saint-Paul, parce que c'est ma paroisse, Saint-Paul à Paris. J'ai l'église Saint-Paul devant chez moi.
Bon.
Et d'autre part, c'est un très très beau personnage, Saint-Paul.
C'est un grand personnage de l'histoire française.
C'était James Bond 007.
Ouais, c'est effectivement, donc ce sont des textes magnifiques de charité, de doctrine, mais aussi, je dirais, de bon sens, moi j'aime beaucoup, de finesse gasconne, c'était vraiment un gascon, et pas qu'à moitié, n'est-ce pas, d'humour, et un beau français, comme on en parlait.
C'est un activiste, voilà, dur, c'était pas du tout un homme qui était perdu dans ses oraisons, quand il fallait prendre un bâton.
On voit à travers tout ça, donc c'est les plus belles pages, j'ai oublié de donner le titre, c'est les plus belles pages de Saint-Vincent de Paul, et donc Saint-Vincent de Paul est un homme qui n'a pas écrit à proprement parler, ce sont soit donc des lettres, soit ce qui a été pris en script à l'époque, de ses instructions. Et c'est vrai qu'on voit cette charité. Il a mobilisé la France pour sauver des provinces entières. Il a sauvé de la faim et de la famine et de la misère des provinces entières. Il a mobilisé une charité extraordinaire.
Et le travail qu'il a accompli avec contre ou autour des barbaresques.
Voilà, c'est ça.
Il a fait un travail formidable, un travail qui est en de nombreux points probablement comparable à celui du père de Foucault.
Oui, ça c'est. Et puis également, donc c'est un homme qui a travaillé beaucoup à la rénovation du clergé. C'était quand même, il y avait des curés de paroisse curé de paroisse à qui il est obligé d'apprendre le Notre Père, pour dire l'état. Parfois, on se plaint de la situation actuelle, mais malheureusement, elle a déjà été, dans le passé, assez extraordinairement catastrophique.
Monsieur l'abbé, permettez-vous de vous dire que la plupart des curés de paroisse en France, à l'heure actuelle, ne connaissent pas le Notre Père.
C'est possible, c'est possible.
En tout cas, ce qu'ils récitent, c'est un truc qui ressemble vaguement au Notre Père qu'on nous avait appris, mais c'est pas le bon.
Et quand la générale des galères, dont il a été l'éducateur de ses fils, allait dans les églises paroissiales de ses propriétés, elle avait un papier sur lequel elle avait la formule de l'absolution, et quand elle allait se confesser, elle disait: Monsieur l'abbé, vous dites cette formule parce que je veux être vraiment absous. Voilà, donc et ces pages de Saint Vincent de Paul, je pense, donnent vraiment de l'enthousiasme, ils donnent de l'espérance. C'est quelqu'un qui donne du tonus au lieu de décourager. Donc c'est les plus belles pages de Saint Vincent de Paul, 13,50 €. On peut donc les commander à Clovis, j'ai déjà donné l'adresse, boîte postale 88-91-152 Étampes, téléphone 01-69-78-30-23, ou bien sûr à la librairie France Livre, c'est 6 rue du Petit Pont, dans le 5e arrondissement et dans les autres bonnes librairies. Et puis également, je voudrais signaler pour tous les Parisiens qui seront présents à Paris le 14 juillet que la librairie France Livre, donc, dont on vient de donner l'adresse, 6 rue du Petit Pont dans le 5e arrondissement, organise, ça paraît logique, une journée catholique et royale en l'honneur, donc qu'est-ce qui s'est passé le 14 juillet, bien sûr, en l'honneur de Jacques Catlino, qui est mort au combat le 14 juillet 1793. Donc venez de 14h à 18h à la librairie France Livre. D'une part, vous pourrez rencontrer Anne Bernet qui signera ses livres, notamment ceux consacrés à la chouannerie et à la Vendée. Et vous pourrez aussi discuter et boire un coup, parce que c'est une journée catholique et française, royale, française, et c'est tout ce que je veux.
Donc, la même chose.
Voilà, donc il y aura un coup à boire. Donc le 14 juillet, la librairie de 14h à 18h sera ouverte et vous accueillera pour une journée en l'honneur de Catlino. Le 14 juillet, c'est la fête.
C'est la seule bonne façon de fêter le 14 juillet. Enfin, célébrer le 14 juillet.
Et je finis un tout petite chose, sans abuser, bien sûr, c'est pas mon genre. Donc, pour ceux que ça intéresse, j'achève donc une grosse brochure consacrée à libéralisme et antilibéralisme catholique. Donc, ceux que ça intéresse, note ça. Elle sortira début septembre et je la signerai le samedi 4 septembre.
Autre date intéressante.
Voilà, à la librairie France Livre, donc 6 rue du Petit Pont. Donc, qu'il note ça et je viendrai en reparler ici. Donc, je vous rappelle que cette dame signe demain, d'après ce que j'ai, de 15h à 18h à la librairie France Livre.
Madame Mesqui.
Voilà.
Da.
Donc, 6 rue du Petit Pont.
C'est foutu une fois pour toutes.
Vous savez qu'il y a un soldat de la CAFOR qui s'est fait lyncher au Kosovo parce que c'était un Bulgare et il a dit Da. Tous les gens du bus lui sont tombés dessus, ils l'ont tué. Parce qu'il est interdit de parler un langage serbe au Kosovo. Vous savez, les Albanais, les gens tolérants, les amis de Chirac et de Jospin.
On va en parler des Albanais, du Kosovo. Merci, monsieur l'abbé.
Merci beaucoup.
Je vous rends votre liberté, que je ne vous avais d'ailleurs pas confisquée. Et puis au mois prochain pour la suite. Peut-être non, à la rentrée en septembre.
Pour de nouvelles aventures à la rentrée.
Pour de nouvelles aventures des éditions Clovis et de Fidélitaire. Qui publie son numéro 160, Le cinéma ange ou démon, avec, j'ai dit, une belle photo d'un personnage que j'aime beaucoup, qui s'appelle Mel Gibson. Voilà. Je vous donne la parole tout de suite, Jean-Claude Chabrier, mais je voudrais recevoir d'abord ce jeune homme pour le libérer, parce que je suppose qu'à son âge, on a autre chose à faire que de rester autour d'une table fuche, une table de radio.
Dites-moi, vous... ménagez-moi si je pense après.
Non, ne vous inquiétez pas, vous serez ménagé. Donc, vous êtes membre des Jeunesses Identitaires, vous vous appelez Philippe Vardon, et vous venez nous présenter le programme du prochain camp des Jeunesses Identitaires, qui se tiendra du 16 au 21 août prochain, sur un thème que j'ai trouvé, je l'ai dit déjà, extrêmement intelligent, qui est sur les traces d'Ulysse.
Oui, tout à fait. Donc le second camp des Jeunesses Identitaires se déroulera cette année du 16 au 21 août dans la région lyonnaise. Et effectivement, nous avons choisi comme trame de ce camp d'été de marcher dans les pas d'Ulysse.
Donc, il faut savoir nager, hein.
Et ben, on va essayer d'y arriver. Tout d'abord, je voudrais dire que le but de ce camp, quand on voit ce qu'a évoqué Madame Mesquida tout à l'heure, ou ce dont on va parler plus tard, la situation actuelle au Kosovo, le but des Jeunesses Identitaires, c'est de se former, de se dépenser aujourd'hui, de donner tout ce qu'on peut pour demain éviter beaucoup de sang et beaucoup de larmes. quand on voit ces situations, on peut se dire qu'il y a bien sûr beaucoup de travail et c'est versé à comptant. Donc un camp d'été, pourquoi ? Pour se former, mais aussi pour avoir dans l'année un rendez-vous communautaire, un rendez-vous où des militants de toute la France vont se rencontrer, de toute la France et même d'autres pays francophones, puisque cette année nous aurons la chance d'avoir des camarades de Belgique wallonne et de Suisse romande qui participeront au camp avec nous. Donc, sur les traces d'Ulysse, Ulysse pourquoi ? Parce que nous considérons que la figure d'Ulysse, à travers l'histoire et la mythologie européenne, est celle qui est la plus représentative de ce qu'on pourrait considérer comme l'esprit européen. Ulysse peut être à la fois considéré comme un exemple d'aristocrate au service de sa patrie. Ulysse, c'est aussi l'homme qui va parcourir tous les dangers et affronter tous les diables et tous les monstres pour aller retrouver quoi ? Pour aller retrouver sa terre et son amour, sa femme et ses enfants. Je pense que dans la société actuelle, c'est le genre d'exemple qu'on n'aime pas vraiment mettre en avant. Et c'est pour ça que nous avons choisi de marcher dans ses pas dans le cadre de ce camp.
Et alors c'est fait d'une façon, enfin j'en ai parlé un petit peu avec les animateurs des jeunesses identitaires, et j'ai trouvé que la façon dont ils abordaient la formation des jeunes militants à travers un modèle comme Ulysse, est vraiment c'est une façon extrêmement intelligente, extrêmement astucieuse, parce que il y a pas seulement Ulysse, il y a tous les personnages de l'Iliade et tous les personnages de l'Odyssée qui chacun incarne des vertus ou des travers de la personne, de l'homo européanus. Et ils ont bien réfléchi à ça, ils ont construit un programme qui me paraît très prometteur. Et moi, je sais que si j'avais 17 ans, ce qui Dieu me plaise, je serais candidat pour aller dans ce camp, parce que je crois que vous allez apprendre beaucoup de choses passionnantes.
La figure d'Ulysse et à travers lui, bien entendu, tous les héros qui peuplent l'Iliade, l'Odyssée, mais aussi l'Énéide, puisque nous basons sur ces trois textes, va servir donc de fil rouge aux différentes conférences du camp. Donc, tout d'abord, une étude évidemment des textes. Ulysse comme figure de l'européanité, Ulysse comme exemple, comme je disais tout à l'heure, d'aristocrate militant. Et c'est à travers ces textes, à travers cette figure, que nous avons essayé de nous recentrer sur l'essentiel qui est notre identité, dont on peut estimer qu'Ulysse est un plus qu'un digne représentant. Lors du camp, bien entendu, puisqu'on parle de formation, on va aussi retrouver les ateliers classiques, rédaction de tracts, prise de parole en public, technique de tractage, des ateliers un peu plus pratiques comme des ateliers de secourisme, la gestion de foule hostile.
Et puis, c'est joli comme formule, ça. Ah, ça, j'aime bien cette formule-là. La gestion de foule hostile. Mais il faut le réduire, il faut appeler GFH. Ouais. On va faire un peu de GFH, de gestion de foule hostile. Dans le temps, on appelait ça
de GFH,
la baston, mais la gestion de foule hostile, c'est très très bien. Chapeau. Ils sont intelligents, les petits identitaires.
C'est ce
moi,
que je me
disais
depuis deux minutes. Là.
Ouais. Voilà. Bon, écoutez, alors ça se passe quand ?
Ça se passe du 16 au 21 août, dans la région lyonnaise, plus précisément vers Grenoble. Donc cette année, nous...
À quel endroit ? Enfin, pas précisément, mais autour de Grenoble.
Voilà.
C'est un joli coin, ça. J'aime bien par là.
Et on a un superbe lieu de camp. Ouais. Et nous réunirons cette année, donc nous pensons réunir 40 militants, donc comme j'ai dit tout à l'heure, avec des militants qui viennent aussi de Suisse et de Belgique. Vos auditeurs, s'ils le souhaitent, peuvent aider des jeunes militants à participer à ce camp par une formule de parrainage. Donc pour soutenir le combat identitaire et parrainer un militant des jeunesses identitaires dans le cadre du camp de formation 2004 sur les traces d'Ulysse, on peut envoyer un chèque ou un mandat à l'ordre des identitaires de 50 euros, ce qui prendra en charge la totalité de la participation. On peut envoyer 500 euros pour parrainer 10 militants éventuellement. Ouais. Mais il faut savoir qu'à travers ces 50 euros, c'est la participation totale, le coût global du camp pour un jeune militant. Évidemment, certains militants sont dans des situations précaires, certains sont des jeunes lycéens, certains sont des jeunes étudiants. Et donc pour nous, le principe est que le maximum de personnes puissent venir. Donc on peut envoyer un chèque ou un mandat à l'ordre des identitaires de 50 euros. Ou beaucoup plus. Alors, je vous donne l'adresse, les identitaires, boîte postale 5, 21 120, Tilchâtel.
Répétez, le village, c'est... Enfin,
Ile-Châtel. 21 120 Ile-Châtel.
Alors,
les identitaires, boîte postale 5, 21 120 Ile-Châtel, T-I-L-C-H-A-T-E-L.
Oh, c'est assez simple, finalement. Quand même, moi, j'aurais pu l'écrire proprement. Merci, merci beaucoup, Philippe Bardon, et bon courage et bonnes vacances en compagnie du Lys.
Oui, c'est très, très rassurant. Hein.
La relève est là, c'est très bien.
Merci. Bravo, les gars.
Cher Jean-Claude Fabrier, si vous voulez changer de place et venir à ce micro-là, vous serez beaucoup mieux.
C'est très mauvais en sociologie, face à face, c'est le conflit. Il faut toujours être à 90 degrés.
Ah oui, mais moi, ça me... C'est pas vous qui, après, avez des troubles des cervicales.
Cervicaux.
Asseyez-vous donc et parlons.
Je ne suis pas venu pour le conflit. Malheureusement, on va parler d'un conflit dont nous ne sortirons pas de sitôt.
Alors avant, il faut quand même, excusez-moi, parce que autrement je vais oublier, je suis en train de lire un livre qui est un recueil de chroniques de Michel Reboul, très très beau livre, vraiment très beau livre, qui s'appelle L'Invisible Infini, qui est une sélection des articles de Michel Reboul de Monde et Vie, et dans Monde et Vie et dans le Figaro. Et je l'inviterai à ce micro probablement si elle veut bien venir à la rentrée, mais je signale qu'elle fera une signature toujours à la librairie France Livre, 6 rue du Petit Pont, le 17 juillet, donc la semaine prochaine. Ça se doit nous emmener le vendredi prochain, ou quelque chose comme ça, 17 juillet, enfin vendredi en 8, 17 juillet de 15h à 19h à la librairie France Livre, 6 rue du Petit Pont, Paris 5e. Voilà. Alors, Jean-Claude Cabrier, vous êtes musicologue et vous êtes récemment allé, comme vous le faites très régulièrement, vous étiez venu nous raconter un voyage en Irak il n'y a pas très longtemps.
C'est vrai, l'été, l'Irak, l'Iran. Proche-Orient, l'été, les Balkans, l'hiver, à Noël et à Pâques.
Je fais le contraire, enfin, chacun prend son plaisir où il le trouve. Et là, vous êtes donc allé dans les Balkans, il y avait du monde ?
Ah, où ça ? Ça dépend.
Aux Balkans.
Mais les Balkans, c'est immense, voyons. Les Balkans,
je sais pas,
ça commence...
Je me dis toujours qu'il y a du monde aux Balkans. Alors
un jour, j'ai téléphoné à Croater, enfin, je sais pas si ça s'appelle comme ça, la ligne croate. J'aurais demandé s'ils avaient des vols pour Skopje. Je lui ai dit, parce que je voudrais m'attarder dans les Balkans. Alors, je suis tombé sur une croate militante qui m'a dit, monsieur, nous n'avons rien à voir avec les Balkans. Ah, je lui ai dit, c'est vrai, vous êtes vénitien.
Oui.
Ah, s'ils sont pas balkaniques, ils sont vénitiens. Il faut bien avoir un maître dans le monde moderne. Alors, cela étant, dans les Balkans, moi, je suis parti en bus. Parce que c'est moins cher pour tout avouer. Et comme j'ai toujours fait ça en voiture, le bus, j'aime la route. Alors, je suis d'abord arrivé à Belgrade. Parce que quand je vais dans les Balkans, j'ai quand même une préférence pour le pays qui a accueilli presque ma puberté. J'avais pas d'argent pour les vacances, c'est il y a longtemps, il y a 53 ans. Et n'ayant pas d'argent pour les vacances, je me suis engagé dans un chantier qui s'appelait Omladinska Pruga do Banja Luka. C'est ces chantiers que faisaient...
J'ai compris Banja Luka.
Banja Luka. Alors, c'est les chantiers que faisaient tous ces pays en reconstruction, parce qu'il faut dire que les Allemands avaient laissé beaucoup de pendus à Belgrade. En Croatie, non, ça allait mieux, puisque la Croatie était plutôt copine avec l'Axe.
Il avait plutôt laissé des anciens combattants en Croatie.
Oui, pas des anciens Ustachi. Mais enfin, ne faisons pas trop de politique interne. Alors, je me suis retrouvé comme ça, c'était en Bosnie, mais si c'était maintenant, puisque cette Bosnie, c'est une invention de Tito. Tito a tout inventé. Il a inventé le Kosovo albanais. Il n'y en avait pas d'albanais à l'époque, mais il les y a mis. Il a inventé la Bosnie en prenant un petit coup de Croatie, un petit coup de Serbie. Comme ça, ça nous a fait une république de plus. Et grâce à ça, on peut dire que l'Europe vient de faire un superbe infanticide, puisque quand il s'agit d'adopter la Pologne, elle rentre avec les frontières de Yalta, de Roosevelt et de Staline. Mais la Yougoslavie, c'eût été trop beau, il fallait la dépecer. Alors on avait affaire à des sextuplés, on en a laissé naître 5, mais la 6e, qui s'appelait Serbia, si j'ose dire, on a décidé de lui couper un membre et de lui greffer une espèce de parasite, une espèce de cancer, en ce sens que on a entériné la malédiction de Tito, car les gens qui ont cru que les Serbes étaient les préférés de Tito se sont trompés. Tito haïssait les Serbes. Il avait reçu une balle serbe à la guerre de 14-18 quand il était dans l'armée autrichienne.
Donc Tito, et j'y étais en 51 au congrès de Tuzla, on a décidé qu'on laisserait rentrer tous les Albanais qui voudraient au Kosovo, mais que les Serbes au contraire étaient priés de ne pas y revenir. Donc voilà ce que j'ai trouvé au Kosovo. Seulement j'ai eu l'impression, si vous voulez, comme j'ai eu la chance de connaître la Yougoslavie il y a 50 ans, et que j'y vais régulièrement bien entendu, j'ai une impression, par exemple, je suis né à Neuilly-sur-Seine. Imaginez dans 20 ans que Neuilly-sur-Seine soit une ville à 98% arabe et musulmane. En retournant à Neuilly, je serais à la fois étonné, mais mon étonnement n'irait pas dans le sens de l'enthousiasme, c'est-à-dire j'aurais l'impression qu'on m'a volé mon village natal.
C'est la soirée des euphémismes.
L'église Saint-Pierre aurait brûlé, l'église Saint-Jean aurait brûlé, l'église Saint-Jacques aurait brûlé, mais il y aurait au rond-point Winston Churchill, je sais pas pourquoi ils vont donner ce nom-là, à Neuilly, il y aurait un monument à la mémoire, je sais pas quoi, des morts de l'immigration récente, car il y a partout des monuments aux morts en Albanie. Comme disaient des officiers français qui me convoyaient la première fois j'étais un peu timide, maintenant je prends le bus albanais, ils me disaient les Albanais sont très malins, ils enterrent tous leurs morts le long de la route. Comme ça, on peut les compter, alors que les Serbes sont plus discrets et les enterrent dans les cimetières. Voilà, je vous ai fait une introduction qui est peut-être un petit peu historique, mais il fallait quand même dire pourquoi je connaissais.
Comme vous êtes musicologue, vous êtes venu avec de la musique, je ne
oui,
me trompe pas.
Oui, alors, comme la situation de la Serbie est catastrophique par la faute de la République française qui fait du compérage avec l'Allemagne pour refaire la carte d'Hitler et de Mussolini, je suis venu avec un air qui est à la fois religieux, mais qui est « Gospodi pomilu », autrement dit « Kyrie eleison », mm-hmm, pour le traduire en bon
Seigneur prend pitié.
Parce que d'abord c'est beau et qu'ensuite ça correspond un peu à la situation.
Alors, si on peut entendre ce « Gospodi pomilu » qui est un... Le Kyrie russe, pardon, orthodoxe.
Oui, car les Serbes sont un petit peu hellénisés et ils chantent aussi en Kyrie eleison.
Voilà, c'était Gospodi Pomilu dans une version, alors comme vous le disiez hors micro, Jean-Claude Chabrier, une version un peu lyrique, un peu italianisante.
Oui, oui.
Parce que les Serbes sont des orthodoxes, des slaves, mais il y a quand même le contact avec...
Ben, il y a le contact historique dans les monastères. On voit ça, par exemple, justement, Deitchani, qui vient d'être inscrit au répertoire de l'UNESCO. Il y a des influences vénitiennes très nettes. Il y a des lions.
Alors, je vous ai invité à venir parce que vous revenez de ce pays, et au moment où vous en revenez, est publié par l'Assemblée des évêques de l'Église orthodoxe serbe un livre qui est un très très intéressant livre, très bien illustré, avec un cahier de photographies en couleur magnifique à la fin, et qui est vendu par à l'église Saint-Slava, 61 rue du Simplon à Paris, qui s'appelle Mémorandum sur le Kosovo et la Métochie, et qui recense les événements qui se sont déroulés dans cette province serbe occupée depuis la guerre, depuis la fameuse guerre qui a ravagé ce pays.
On peut dire que c'était une guerre islamiste, et ce sur quoi il faut insister...
En tout cas, une guerre menée pour les islamistes.
Oui.
Et pour le compte des...
Il faut la complicité de la classe politique française, des communistes, à ce qui s'appelle la droite classique, enfin, un peu là comme vous voudrez, est quand même flagrante, puisque maintenant ils sont en train de pousser les hauts cris en dénonçant le terrorisme. Or, c'est une guerre qui a été menée au profit des terroristes albanais pour déloger les Serbes autochtones.
Mais il faut rappeler que quand cette guerre a été déclenchée, bon, c'est même pas une guerre, d'ailleurs, on dit une guerre, c'est un véritable passage à tabac. C'est un peu comme dans une cour d'école, si les 5 ou 6 élèves les plus costauds décidaient de foutre une raclée à un gamin de la petite classe.
Il y avait 29 pays contre la Serbie, c'est pas mal.
29. Tout ça, naturellement, accompagné des habituels protestations de noblesse des intentions, et alors il y a eu des déclarations tout à fait extraordinaires.
On peut les lire, ça fera plaisir à ces messieurs. Alors je cite d'abord Monsieur Jospin. Ce n'est pas une guerre, ce sont des frappes menées au nom du droit. Ah bien. Chirac, la guerre des démocraties en faveur des droits de l'homme. Tony Blair, c'est une guerre éthique. Cohn-Bendit salue la naissance de la souveraineté humanitaire. Alain Madelin se félicite du triomphe du droit du plus faible. Robert Hue est d'accord du moment qu'on n'envoie pas les soldats au sol. Autrement dit, écraser les Serbes sous les bombes, mais pas de soldats au sol. Kouchner et Bernard-Henri Lévy, là on connaît mieux, ils sont nettement compromis. Et on trouve ça d'ailleurs, moi je les avais notés à l'époque, mais vous trouverez un livre de Daniel Ben Saïd qui s'appelle « Contes et légendes de la guerre éthique ». C'est sorti chez Textuel. Je ne sais pas, le livre ne doit pas être très connu parce que ces messieurs de la classe politique ne se vendent pas beaucoup de tout ce qu'ils ont fait en faveur de cette guerre au profit des islamistes. Soit dit au passage, il faut quand même rappeler que Le Pen et Maigret ont protesté contre cette guerre et que les Serbes sont venus le 1er mai avec ces deux messieurs protester.
Alors, cette guerre a fait des dégâts, mais ces dégâts ne se sont pas arrêtés avec la fin des hostilités. Et vous, ce que vous avez vu quand vous étiez là-bas, c'est un pays dévasté, non pas par les bombes de la coalition du droit éthique, comme dit l'autre abruti, mais par les hordes sauvages de l'occupation albanaise,
oui,
islamo-albanaise.
La méchanceté. Les Albanais ne sont pas des islamistes très rigoureux. Ils boivent volontiers de l'alcool. Et comme vous savez, on a détruit les usines au Kosovo. Ils sont tous au bistrot. Donc, et ils peuvent boire de l'alcool. Là-dessus, ils sont assez large esprit. Mais en revanche, leur haine de l'orthodoxie est quelque chose d'effarant. Et on peut dire, on a rarement vu un peuple aussi destructeur, puisque tous les vestiges de la culture serbe, qui, dans cette province, remonte, la plupart de ces églises sont du XIIe ou du XIIIe siècle, les Albanais vont toutes les détruire. Et j'ai vu des choses, ils ont des techniques étonnantes. Alors je peux dire que la seule armée de la KFOR qui se comporte avec dignité en tant qu'armée d'un pays plus ou moins chrétien, c'est l'armée italienne. Mais il faut dire que les Italiens connaissent les Albanais, ils avaient annexé l'Albanie en 1939, ils savent à qui ils ont affaire. Toutes les autres armées sont absolument nulles. Alors les Albanais ont des techniques effarantes, ils se donnent tous le mot, et un soir, devant les 4 soldats italiens, allemands, français qui gardent l'église, si c'est une belle église, si elle est vilaine, enfin si elle est moyenne, on la garde pas, on met 300 enfants devant, 500 femmes derrière et encore 500 hommes derrière, et les soldats de la KFOR n'ont pas le droit de tirer sur les foules albanaises, ils faisaient sur les Serbes dans le temps, mais Et alors, forcément, ils sont submergés. Ils ont réussi. Ils avaient fait sauter l'église de Djakovica, que j'ai prise en photo la dernière fois que j'étais à Djakovica. Mais ils ont fait le coup avec les enfants, les femmes et les hommes. Et ils ont réussi à débarrasser les ruines de cette église, ce qui fait que maintenant, c'est un jardin public. Il n'y a plus une trace de culture orthodoxe. Je ne dis même pas serbe. Il s'agit d'une guerre de religion. On a bien aidé des musulmans à effacer une culture chrétienne qui était chez elles.
On a un exemple dans le livre dont je parlais à l'instant, Mémorandum sur le Kosovo et la Métochie. Je signale que c'est un livre, il faut quand même que je précise, c'est un livre qui fait 230 pages, 240 pages, dont une douzaine de pages de très belles photos en couleur et des cartes qui montrent l'implantation des monastères et des églises monumentales.
Oui, je crois qu'il y a plus de 1000 sites, il y a plus de 1000 sites religieux.
Et c'est un livre qui est vendu 5 euros. Et c'est vraiment, je sais pas comment ils font, parce que c'est même au poids du papier, ça vaut plus que ça.
Mais enfin, il est peut-être imprimé en Serbie, et vous savez que malheureusement, le change fait que la vie en Serbie est très bon marché pour nous. Alors, ce n'est pas vrai.
En tout cas, dans ce livre, il y a des photographies, et notamment une photographie de l'église de la Mère de Dieu à Mouchoutichté, qui date de 1315, qui datait de 1315, qui est une pure merveille, vraiment, qui est une splendeur au milieu des bois, de la verdure, construite avec des briques. Des petites briques, un peu à la vénitienne, des briques plates, vous savez. Et donc il y a la photo de l'église, et dessous, la photo de ce qui reste après le passage des Albanais en 1999.
Ah, mais ça c'est 99, mais ça continue. C'est-à-dire le 17 mars 2004, les Albanais ont réussi à mettre le feu à 30 églises, et quand ils ont mis le feu, après la dynamite. Ils veulent la pulvériser, c'est-à-dire, il y a quand même une haine de l'église. Ça s'est peut-être passé en Turquie du Sud-Est après la guerre de 14-18, après le génocide arménien, mais grosso modo, il y a peu de pays actuellement qui dynamitent les églises systématiquement. Les Albanais en sont capables.
Et la CAFOR ne peut rien. Il y a d'autres photos, comme le monastère des Saintes Anargyres à Jochistay, monastère du XIVe siècle, qui a été totalement détruit, miné, totalement détruit à la dynamite, au milieu des bois d'ailleurs, ça a arraché les arbres, etc. Il y a le monastère d'Olach près de Klina, monastère du XIVe siècle. Alors là, c'est très simple, il n'y a plus rien. Voilà, plus rien du tout.
Et ça a été fait après le 10 juin, c'est-à-dire ça a été fait après les bombardements. La CAFOR était présente et n'a rien fait.
Le monastère de Devic, près de Cervica.
Devic est en zone française, là aussi.
Le monastère du XVIe siècle, il a été incendié et dévasté par les Albanais et totalement détruit. Totalement
ça, c'est
détruit
du 2004.
Ouais. Le monastère de Binac. Alors là, c'est pareil, bon, un petit monastère, il reste un tas de pierres, sous la neige d'ailleurs. Le monastère de Devic, où un sarcophage a été profané. La signature de l'UCK a été gravée sur l'icône de Saint Parasève. Le monastère de la Sainte Trinité, alors ça c'est probablement le plus spectaculaire, c'est l'immense monastère de la Sainte Trinité à Djagovica, vous le connaissiez, non?
À quel endroit?
Djagovica.
Ben oui, mais c'est l'église qui est au centre.
C'est ça.
Non, mais elle a eu un destin très dur, cette église, parce qu'elle a déjà été dynamitée par les communistes et les Albanais en 45, par là. Enfin, c'est une église qui est, j'allais dire, qui a une quasi-malédiction. Alors là, il est passé, et maintenant c'est le jardin public. Ouais, est-ce que vous avez la photo du jardin public?
Il n'y a pas la photo du jardin public, mais il y a la photo de quelques débris de maçonnerie qui restent.
C'est sur la place centrale de Djakovica, juste en face de l'hôtel, si je ne me trompe pas.
Voilà, alors ça, ce sont les photographies en couleur qui illustrent ce magnifique bouquin, Mémorandum sur le Kosovo et la Métochie, en vente à Saint-Slava, 61 rue du Saint-Plon, dans le 18e arrondissement, pour 5 euros. Ça vaut la peine d'aller voir cette cathédrale serbe, d'ailleurs, parce qu'elle est fort belle, d'aller prendre un verre de Slivo dans le quartier, parce que ça vaut la peine, les Serbes sont des gens vraiment merveilleux, et on peut peut-être avoir la chance de rencontrer Sœur Yelena, qui est une sainte religieuse, qui parle un français parfait, et qui ne mâche pas ses mots d'ailleurs, comme elle a une parfaite maîtrise de la langue. Elle aurait bien tort. Alors, ça n'est pas d'aujourd'hui que le plan de destruction systématique de la chrétienté en Serbie a été initié, puisque je publie dans le dernier numéro du Libre Journal un papier sur l'épuration ethnique au Kosovo, dans lequel il est dit, dans lequel l'auteur explique que à la fin de la Seconde Guerre mondiale, la population de la province du Kosovo se partageait par moitié entre Serbes orthodoxes et Albanais musulmans.
Exact.
Un demi-siècle plus tard, à la fin des bombardements de l'OTAN, il restait 300 000 Serbes chrétiens face à 2 millions d'Albanais. Avec l'occupation de l'OTAN, le mouvement s'est accéléré. 1 million d'Albanais de plus sont venus, ce qui fait qu'ils sont 3 millions.
Mais ça rentre tout le temps.
Et 200 000 Serbes sont partis, ce qui fait qu'il reste 100 000 Serbes face à 3 millions d'Albanais.
Ou même pas actuellement, je crois qu'il ne reste même pas 100 000 Serbes. La vie est impossible, ils sont persécutés. J'ai vu le bus qui emmène les adolescents serbes à l'université de Pristina, c'est un bus avec des grillages partout, comme les bus de la police les jours de manifestation. Et alors, les Serbes sont persécutés, ils sont lynchés, ils sont battus, les vieilles femmes sont battus, il y en a qui sont morts brûlés vifs dans leur maison. Je dois dire que dans le monastère de Devic, ils n'ont pas assassiné les bonnes sœurs. Et même chose dans le monastère de Prizren, ils n'ont pas achevé les moines. Mais il faut dire que c'est les Allemands qui les ont fait sortir.
Vous parlez de Pristina, il faut savoir qu'à Pristina, l'église du Saint-Sauveur a été transformée en toilette publique par les Albanais.
Oui, c'est un truc qui s'est fait du temps des communistes bolcheviques. Sur la place Rouge, une église avait été transformée en toilette publique.
Comment êtes-vous reçu, comment avez-vous été reçu là-bas? Quelle est la langue?
Alors, je viens de lire un article de quelqu'un qui a fait le même voyage que moi, mais par la voie une Mikafor. Moi, je le fais par la voie serbe. C'est-à-dire, je prends le bus à Belgrade pour Mitrovica. À Mitrovica, si je vois une voiture de l'armée française, je leur précise que je passe le pont. D'ailleurs, dans la voiture française, en général, il y a deux bronzés sur quatre. Mais enfin, bon.
Oui, vous disiez qu'il y avait beaucoup de jeunes recrues qui étaient des beurs.
Oui, hein? Mais cela étant, on les envoie peut-être à Mitrovica. Alors, j'ai vu également quelques interprètes de l'armée française. C'était des islamistes, comme j'en ai rarement vu. Ils allaient même reprocher à Mustafa Kemal d'avoir pris l'alphabet latin pour la langue turque. Or, pourtant, l'alphabet latin lui convient beaucoup mieux que l'alphabet oriental. Mais enfin, peu importe. Alors, après ça, le plus dur à faire, mais il n'est pas tellement dur, il faut passer le pont. Comme je ne suis pas serbe, théoriquement, je ne risque rien, sauf une balle perdue ou un accident.
C'est pas marqué sur votre front, vous n'êtes pas serbe.
Non, mais malgré tout, les types ethniques se voient pas mal, vous savez. Oh, puis on reconnaît facilement un type dont les vêtements viennent d'ailleurs. Enfin, peu importe. Alors là-dessus, je vais à la gare de bus, de minibus, et je prends le minibus pour Pristina. Et puis après, à Pristina, il faut que je prenne un taxi pour aller au monastère de Gračanica, qui est une enclave serbe. Bien entendu, une enclave serbe qui est à la merci des Albanais, puisque les contingents de la KFOR sont ridicules par rapport à la force et à la ruse des Albanais. C'est pas quatre soldats qui peuvent protéger une mosquée quand les gens arrivent à 1000 en mettant les enfants devant.
Surtout quand on leur interdit... Une mosquée, vous voulez dire une église. Surtout quand on leur interdit de faire usage de leurs armes. Parce que,
oui, ils ne peuvent pas faire usage de rien. Alors, quand j'arrive dans l'enclave de Gračanica, là c'est simple, je suis allé au repas du soir, j'ai été reçu par la sœur Sara, puisque vous parlez de la sœur Yelena. Ensuite, on m'a donné une chambre. Quand c'est pas en grande période de pèlerinage, il y a des chambres dans les monastères. Le lendemain, je suis allé aux matines, puis à la liturgie. Et après, sur le coup de 2 heures de l'après-midi, j'ai rencontré l'évêque qui s'appelle Artemije, qui au début a été très mal jugé parce qu'il avait tout de suite collaboré avec les troupes de l'OTAN, enfin la KFOR et l'UNMIK. Mais sa collaboration ne lui a pas valu beaucoup d'égards, donc maintenant il est obligé de défendre bec et ongles sa communauté qui est évidemment maltraitée. Là-dessus, pour aller à Peć, alors le plus dur, c'est que Gračanica étant une enclave serbe, le plus dur, c'est d'y arrêter un véhicule albanais qui normalement ne s'y arrête pas, qu'il traverse le plus vite possible. C'est normal puisqu'il y a hostilité. Et quelquefois, les Albanais, en le traversant, lâchent une rafale de mitraillettes. C'est arrivé récemment. Ils ont tué un jeune homme. Alors, peut-être que j'ai l'air plus étranger que la moyenne. J'ai réussi quand même à stopper un minibus serbe, albanais. Si je commence à faire des lapsus, c'est très grave. qui m'a emmené à Pristina. Puis à Pristina, je prends le bus albanais pour Pech. Alors je vous dis tout de suite que tous les bus du Kosovo ont été donnés par les pays occidentaux. Alors vous voyez encore écrit défense de parler au conducteur, société des transports publics de Saint-Étienne ou que sais-je, Lozère Transport. Enfin, ce sont des bus qui ont été donnés. Ils ont encore leur plaque d'immatriculation d'origine française, allemande ou autre, etc. Mais maintenant, ils commencent à avoir, ils ont des plaques du Kosovo. Après ça, alors j'arrive à Pech. Alors à Pech, les Italiens sont obligés de m'escorter. En période calme, on peut aller jusqu'à la garnison italienne qui protège le monastère. En période difficile, il faut se faire embarquer en voiture blindée. Et puis après, une fois qu'on est dans le monastère, alors je dois dire que les Italiens se comportent bien. Ce sont les seuls dont les Serbes n'aient pas à se plaindre. Du moins, ils se plaignent du manque d'effectifs. Les Italiens, mais c'est parce qu'ils connaissent les Albanais depuis des décennies, les Italiens sont les seuls à se comporter en protecteurs efficaces des monuments.
Alors, il faut quand même dire une chose, c'est que, enfin, il faut le rappeler, parce que ça a été assez peu dit en France, c'est que les Albanais ne sont pas tous musulmans ou islamistes. Il y a des Albanais musulmans, il y a des Albanais chrétiens, c'est-à-dire des Albanais orthodoxes et catholiques.
Oui, alors malheureusement, d'après les renseignements que j'ai, moi j'ai pas fait des recensements et je suis pas tombé un jour d'émeute, malheureusement les Albanais catholiques sont solidaires des musulmans pour aller brûler et malmener les Serbes. Il y a un nationalisme qui est albanais, c'est mêlé d'une guerre religion, mais la guerre est contre l'orthodoxie. Et comme vous le savez, le Vatican est assez compromis du côté croate et musulman par une sorte d'atavisme polonais. Pour le polonais, l'orthodoxe, c'est l'ennemi. Donc les Serbes se trouvent un peu comme les Byzantins après le sac de Constantinople, après la croisade des barons. C'est-à-dire, ils attendent la fin, hein. Vraiment, j'ai eu l'impression, en dépit, j'ai parlé avec des moines qui étaient des gens cultivés, polyglottes et tout, ils attendent la fin puisque les troupes qui sont mises pour faire régner l'ordre sont absolument incapables numériquement de faire régner l'ordre. Et seul le général italien a eu la délicatesse d'aller rendre visite à l'évêque, les autres jouent une neutralité qui relève plutôt d'hostilité.
Mais les Serbes, quand ils vous voient, vous, comment se comportent-ils ?
Au Kosovo ou en Serbie ?
Au Kosovo. Alors,
donc, d'abord, les Serbes, je peux leur raconter que j'ai fait la voie ferrée de Bog Banja Luka, que j'étais au congrès de Tuzla en 1951, pas du tout pour des raisons politiques, j'ai jamais été trotskiste, moi je suis monarchiste légitimiste depuis l'âge de raison. Mais je peux leur parler du congrès de Tuzla parce que je suis témoin du fait qu'au congrès de Tuzla, on nous a expliqué que la politique titiste consistait à peupler le Kosovo d'Albanais et empêcher les Serbes d'y rentrer. Donc ça, c'est la réaction générale des Serbes au fait. Ils savent que je suis un ami. Maintenant, évidemment, dans tous les pays occupés et dans tous les monastères encerclés, la visite de quelqu'un qui est un ami est beaucoup mieux accueillie que quand tout va bien. C'est normal. Si vous vous encerclez des gens, que quelqu'un aille leur rendre visite leur fait beaucoup plus plaisir que quand tout va bien. Donc je suis très bien reçu dans les milieux serbes, qui d'ailleurs s'étonnent, ils me trouvent plus audacieux que je ne me trouve. Les gens de la cathédrale de Belgrade pensent que je suis insensé de faire tout ça. Bon, bah, écoutez, jusqu'à présent, j'ai dit tout à l'heure qu'un Bulgare avait été lynché pour avoir dit « da » dans un bus albanais du Kosovo, mais c'était en 2000. Et moi, il m'est arrivé de me tromper de dire d'un, parce que quand je passe au Kosovo, je viens de parler serbe pendant 8 jours. Donc, mon réflexe, c'est de dire d'un. Je ne sais pas dire oui, d'ailleurs, en albanais. Alors, je me dis, essayons de faire attention de parler uniquement allemand ou anglais. Mais, de temps en temps, c'est plus fort que moi, je lâche un mot serbe.
Et alors, ça provoque des...
Ils sont très agressifs. Quand je monte au monastère de Delchani, il faut marcher 3 km à pied ou 2,5 km à pied. Alors d'abord, il faut dire au bus qu'on va à Delchani, le village. Alors eux, ils appellent ça Delchan. Ils commencent par vous regarder de travers. Ensuite, ils doivent vous prendre. Et je ne pense pas qu'ils me prennent pour un Serbe parce que je n'ai pas la physionomie d'un Serbe, enfin pas de façon bien nette. Mais pendant que je monte à pied avec mon sac à dos au monastère de Dečani, tous les jeunes Albanais me lancent des colibets. Je ne pense pas qu'ils m'insultent, c'est simplement qu'ils ironisent. ils ironisent, ils doivent dire tiens voilà un pèlerin ou je ne sais quoi, je ne sais pas ce qu'ils disent, ça n'est pas ordurier, mais c'est moqueur. Alors évidemment quand j'arrive au poste de garde italien, ça les Italiens sont parfaitement corrects, c'est drôle qu'un pays aussi catholique soit aussi respectueux des orthodoxes. Quand la France, il veut dire que le roi de France n'était que très chrétien, non ? C'est les rois d'Espagne qui sont très catholiques. La France n'est pas très 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 respectueuse de l'orthodoxie, en Serbie du moins. De toute façon, c'est pas dans la tradition française de respecter les religions chrétiennes.
Mais je vous regarde, oui, évidemment, surtout la,
du moins dans la tradition,
moderne. Républicaine,
oui.
Je vous regardais pendant que vous parliez. C'est vrai que c'est assez incroyable. Vous dites le contraire, mais vous êtes extrêmement courageux finalement, parce que sous prétexte de récolter des musiques, vous allez dans des endroits les plus improbables et les plus insécures, l'Iran, l'Irak.
Ben j'ai toujours
fait
ça. Vous
n'êtes quand même pas, on peut le dire, sans porter atteinte à votre réputation qui est excellente par ailleurs, vous n'êtes quand même pas taillé pour faire un champion olympique de lutte gréco-romaine, hein, ou alors dans la catégorie poids léger, même coq, on peut dire.
Non, de toute façon, les attaques de ce genre se font au couteau ou à l'arme automatique, enfin, disons ce que je risque, c'est une rafale. Il m'est arrivé de me trouver, c'est-à-dire quand c'est en Turquie du Sud-Est que je vais à la recherche des églises assyriennes, les Turcs m'imposent un commando avec moi. Donc j'ai 20 personnes, plus le détecteur de mines qui marche en premier. Alors,
c'est une femme, non?
Le détecteur de mines. Non, c'est un type qui a l'espèce de fer à repasser. Enfin, ça ressemble.
Ce qu'on disait en Algérie, c'est que jusqu'à la guerre d'Algérie, les Arabes marchaient en tête, montés sur l'âne, et la femme courait derrière avec les ballots. Et puis, on avait un des effets de la colonisation et de la civilisation, c'est qu'au bout d'un moment, les Arabes ont fait marcher les femmes devant elles. Et les gens qui avaient fait la colonisation étaient très fiers d'avoir réalisé cette espèce de promotion de la femme. Jusqu'au jour, ils ont compris que c'est parce que les routes étaient minées. Donc non. Je pensais que les mineurs étaient en jupon là-bas aussi. En
alors, non. Si vous voulez, la curiosité efface la notion de danger. C'est vrai que j'aime pas les colibets qui m'assaillent quand je grimpe de la ville de Dechani au monastère. Mais ça, faut que j'en prenne mon parti. Ou bien je vais au monastère ou je n'y vais pas. Et je n'ai pas les moyens de louer
ça
une voiture.
Ça vous sera compté en plus.
Pardon ?
Ça vous sera compté.
Espérons, je ne sais pas. Oui, l'arrivée à un monastère doit se faire à pied. Mais ça, c'est plutôt une tradition occidentale, parce que je remarque que les chrétiens du Moyen-Orient ne font plus ça. Ils arrivent tous en voiture. Mais bon, alors, disons que je pèse les risques, je ne prends pas des risques absolus, c'est-à-dire je ne fonce pas face à des Albanais en leur disant « Vive la Serbie, vous n'êtes que des usurpateurs ». Quand on discute, je leur dis. Mais ce sont des discussions de bus. Alors dans les bus, on peut tout dire, parce que malgré tout, votre voisin ne peut pas tout d'un coup se lever et vous achever à la hache ou au couteau. Mais enfin, il peut attendre que vous soyez descendu.
Moi, je serais plutôt du genre prudent dans ces circonstances-là, enfin. Voilà, on a essayé de faire un petit tableau de la situation rapide par rapport à l'expérience que vous avez rapportée. Vous faites des photos en plus, je crois.
Ah bah oui, j'ai 60 millions de photos. J'ai une agence qui s'appelle le Christos, Centre pour l'Histoire, la Recherche, l'Illustration, la Sauvegarde des Traditions de l'Orient Spirituel. Ça s'appelle Christos.
Ça, c'est vous qui avez créé cette agence?
Oui, j'ai créé. C'est une marque déposée, pour tout dire. Bon. Ça pourrait devenir une association.
C'est assez gonflé de déposer Christos, quand même.
C'est déjà pris depuis longtemps.
Oui, c'est déjà pris depuis longtemps par un Australien qui s'appelle Christos et qui est joaillier. Donc, la marque Christos est déjà déposée. Et il y a un autre, un grec, qui fait un produit détergent sous le nom de Christos. Je dis ça parce que le fait que j'ai choisi le nom Christos, qui correspondait aux initiales de ma définition, avait un peu froissé le patriarche œcuménique du Fanar, autrement dit sa suprême sainteté Bartholoméos, et je lui ai fait remarquer que Christos était déjà le nom d'un produit détergent en Grèce et d'une marque de joaillerie en Australie, et que malgré tout ce que je faisais c'était des photos sur la culture religieuse des chrétiens des Balkans et de l'Orient, c'était compatible avec l'appellation de Christos.
Donc si on vous cherche des photos ou de l'audiovisuel sur les Balkans, le Proche-Orient, le Moyen-Orient, les minorités chrétiennes, un peu partout et essentiellement à l'Est et en Orient.
Oui, ça commence avec la Serbie. Hein.
Christos. Alors, je veux quand même lire la petite fiche qui vous présente.
Ah, si vous voulez.
Si, parce que ça montre quand même quel personnage vous êtes.
Oh, vous êtes bien bon.
Alors, docteur Jean-Claude Chabrier, docteur en médecine, stage de chirurgie plastique. Là, je vois probe électro, alors je ne sais même pas
savoir. Un examen probatoire
d'électro. Voilà. HIMT, psy, etc. Langues orientales, études de musique.
J'ai fait des études toute ma vie.
Musicologie.
Bac plus autant d'années qu'il y a depuis le bachot.
Orientaliste, musicologue, spécialiste de l'analyse des musiques traditionnelles, ancien membre du CNRS. Alors comment dire, enseignant, non, vous n'êtes pas enseignant à la Sorbonne, vous êtes aussi enseignant à la Sorbonne.
Non ratifiable, je suis professeur qualifié, non ratifiable parce que je suis trop vieux pour tout avouer.
Oui, bon, bref. Donc, Sorbonne Nouvelle.
Je suis encore enseignant à Paris-Sorbonne, j'enseigne l'analyse des musiques traditionnelles.
Membre du Conseil international de la danse de l'UNESCO, lauréat de l'Académie du disque et lauréat de l'Académie Charles Cros. Lauréat du rallye Paris-Calcutta, Ariane Simca, Danube-Gange, c'est quand même assez...
Et tout fait, oui, vous traversez le lac du Bandier à Miraguet, etc.
Voilà. Donc,
vous êtes bien bon de faire ma publicité.
Mais non, mais je trouve ça tellement amusant, parce que je trouve ça tellement... Vous répondez tellement peu à l'image qu'on a du globe-trotteur aventureux, de Bob Moran, etc., que c'est bien vous êtes la preuve vivante qu'il ne faut pas se fier aux apparences.
Écoutez.
En plus, musicologue, on a toujours l'impression que c'est un raseur, et vous êtes tous
un raseur. Musicologue, moi je suis musique traditionnelle, il faut aller les chercher. J'attends pas qu'elles paraissent sur disque, d'ailleurs en général, celles qui paraissent sur disque ne sont pas nécessairement les meilleures.
Les musicologues, c'est un peu comme les œnologues.
Il faut aller sur place, déguster le cru, premier cru. Alors c'est pourquoi nous avons, vous avez entendu l'enregistrement que nous avons entendu, c'est notre diacre. Le meilleur diacre chanteur de la cathédrale de Saint-Michel-Archange à Belgrade. Il chante très bien, mais l'acoustique de cette cathédrale, elle m'a joué des tours. Moi, quand j'enregistre à Saint-Michel-Archange, les résultats sont très difficiles parce qu'il y a un écho effarant et ça se sentait dans l'enregistrement. Ah voilà, il s'appelle Vlado Mikic et il avait fait appel pour ce chant, ce Kyrie Eleison, Gospodi Pomelou, à Ludmila Gross Soprano. C'est dur à chanter et la cathédrale n'a pas l'acoustique qu'il faut. Mais
est-ce que vous nous avez apporté une autre musique?
Oui. Alors, justement, eh bien, je suis content de l'annoncer. C'est Divna Ljubojevich. Je trouve que c'est la belle-sœur du curé de Saint-Sava à Paris. Puisqu'à Saint-Sava, il y a un évêque puis il y a un curé. Mm-hmm. Enfin, on ne dit pas beaucoup curé chez les orthodoxes. Mais si vous voulez, il y a un responsable de l'église et il y a un évêque. L'évêque, c'est Monseigneur Luca. Et le prêtre en charge de l'église, c'est Johan Otats. Puis en russe, c'est Atets. Et en serbe, c'est Otats. Bah, c'est la même racine, évidemment. C'est le père Johan. Donc sa belle-sœur chante, pardon de faire la mauvaise astuce, divinement bien. C'est peut-être pour ça qu'elle s'appelle Divna Ljubojevic. Elle a une très très belle voix. Vous allez l'entendre.
On va écouter Divna.
J'ai pas donné la cassette. Parce
si vous n'avez pas donné la cassette, ça va être assez difficile. Est-ce que Franck a la cassette de Divna Ljubojevna? Voilà, on peut l'écouter? Non, on peut pas l'écouter. C'est bien dommage parce que c'est beau. Il faut la caler. Donc on va passer attendre quelques secondes pour le faire. En attendant, je rappelle donc que vous pouvez trouver une étude écrite de la situation en Serbie dans ce très très beau livre qui s'appelle Mémorandum sur le Kosovo et la Métohije de l'Assemblée des évêques de l'Église orthodoxe serbe qui est en vente à Saint-Sava, 61 rue du Saint-Plon, Paris 18e.
Oui. Est-ce que je peux rajouter un mot méchant sur ma propre responsabilité? Cette guerre de Kosovo me semble un compérage franco-allemand pour refaire la carte d'Hitler et de Mussolini. Alors ça, je trouve ça assez scandaleux. Et je ne suis pas étonné qu'on ait invité les Allemands aux anniversaires du débarquement. On aurait peut-être pu inviter les Serbes qui ont réussi à bloquer 19 divisions allemandes pendant des années. Ils ont, je crois, beaucoup plus participé à la victoire que les Allemands.
Bon, enfin. Oui, on peut dire ça. Ils auraient mieux fait bloquer les divisions soviétiques. Ça leur aurait évité des tas d'ennuis par la suite. Mais enfin, ça, c'est mon opinion personnelle. Je n'ai pas dit de mal de Bob Moran, monsieur. Je ne sais pas, vous avez vu que j'avais dit du mal de Bob Moran. J'ai dit que, simplement, Jean-Claude Chabrier n'avait pas le physique de Bob Moran. Bob Moran, c'était mon idole.
Mais ne détruisez pas, j'ai peut-être des admiratrices au haut-parleur qui voudraient me voir en dehors du micro.
Toutes les femmes n'adorent pas Bob Moran.
Vous me faites une contre-propagande. Je suis désolé. terrain, vous avez
un grand service. Bah, alors, non.
Je suis mince, il est vrai, je suis maigre, mais c'est parce que
non,
j'ai chopé des amibiases et des lambliases. Comment voulez-vous
que alors, si, gros si c'est tout ce que vous avez trouvé pour séduire les dames, dans racontez
j'ai
ça.
J'ai une mésopotamite chronique, mais qui est devenue une balkanite chronique aussi.
On va écouter Diva Ljubovic. Je vais pas y arriver. Oui.
Divna Ljubojevic.
Ljubojevic, c'est ça.
Ljubojevic.
Comme nos auditeurs perspicaces l'auront compris, c'est pas Divna qu'on a entendu. C'est pas Divna Ljubojevic qui est une dame, comme son nom l'indique. Et, ou alors, ça serait la femme à barbe, ce qui n'est pas le cas.
C'est
Vlado Mikic. Il s'agit d'une erreur qui n'est imputable qu'à nous-mêmes, puisque nous avons donné la cassette à Franck sans lui indiquer précisément à quel endroit il fallait la caler. Mais nous ne perdons rien pour attendre. Nous entendrons probablement dans une prochaine émission cette merveilleuse chanteuse.
Je crois qu'elle va venir à Paris.
Ah bah alors, raison de plus pour...
elle est déjà venue chanter.
Merci Jean-Claude Chabrier. Alors, vous n'avez pas de livre à vendre, vous n'avez... Donc, il n'y a pas d'adresse à donner particulière.
Non, et je suis en train de faire un livre d'analyse de musique, donc j'ai rien à vendre. J'ai un téléphone, mais je ne le donne pas au micro,
non,
c'est pas la peine.
Non,
parce que ceux qui ne m'aiment pas m'enverraient des insultes.
Sauf pour les dames, bien entendu, mais ça, c'est une bonne paire de manches. Nous ne pouvons pas servir de truchement dans des affaires de ce genre.
Oui, mais je ne fais pas ça au téléphone, je préfère un contact direct.
Merci Jean-Claude, à bientôt. Revenez nous raconter la suite de vos aventures. Je suis obligé d'annoncer la naissance d'un comité nouveau. Le comité Renouvelons certaines personnes invite les auditeurs de Radio Courtoisie à une manifestation bruyante devant les locaux de la station. En cas de faible assistance, les manifestants tiendront salon dans la première cabine téléphonique voisine. Ensuite, des CD et DVD de la série Sissi seront brûlés en signe de défiance envers les directeurs de certaines émissions. Halte à la dictature du senior age, place aux jeunes. Rendez-nous Patrick Goffman.
Parce qu'il fait partie des jeunes ?
Je sais pas, bah apparemment, le fondateur de ce comité de
renouvellement,
certaines choses. Ah, c'est non, je crois pas, c'est pas son style. Non, non, il ferait pas ça. Non, non.
Tant pis. Bien,
mon cher Marquis, nous allons renouer avec une tradition qui nous avait échappé. Nous allons écouter le générique de votre Minute du Marquis. C'est joli, hein?
Oui. Oui, j'aime assez.
La veuve joyeuse, non?
La veuve soyeuse.
Mon cher Marquis, je voudrais qu'on revienne sur une de vos anciennes passions.
Les courses,
oui.
C'était pas une passion, d'abord c'était mon métier, mais c'est devenu une passion qui a commencé très tôt, parce que quand j'étais enfant, mon parrain, qui était le président du syndicat de la presse hippique, m'emmenait aux courses. C'était le speaker des hippodromes. Puis après, ma vie a pris d'autres orientations, et par le plus grand des hasards, un jour, je me suis retrouvé à vouloir travailler, et il m'a fait entrer dans le monde des courses, où j'ai pas regretté une seconde.
Voilà. Faut quand même, est-ce que vous voulez bien raconter pourquoi vous avez été retenu à cette place? En raison de votre belle écriture.
Oui, c'est ça. Oui, c'était l'époque où il n'y avait pas un seul ordinateur dans le monde des courses, mais il n'y en avait pas beaucoup ailleurs non plus. Et on m'a appris parce que j'écrivais bien et que je savais taper à la machine.
Voilà. C'est vrai que vous avez une écriture magnifique. Vous avez une écriture de calligraphe.
C'est la science des ânes.
Oui, bah écoutez.
Et j'ai eu la surprise parce que notre ami Antonin a des tas d'autographes, parce que son papa était directeur de théâtre, et il m'a montré des lettres de Marcel Pagnol. J'ai la même écriture que Marcel Pagnol. Ah, alors ça me fait très plaisir. La même écriture. En termes de calligraphie, entendons-nous bien, calligraphie. Restons modestes.
Oui, alors Antonin, il faut préciser que c'est le chroniqueur gastronomique masqué.
Voilà, qui est au rez-de-chaussée du journal.
Du Libre journal, parce que nous, on a un chroniqueur gastronomique masqué, comme le guide Michelin.
Voilà, ou le concombre.
Ou le concombre, oui. Mais qui nous donne de très bonnes adresses, avec une retenue dans le ton et une brièveté dans l'expression qui sont tout à fait remarquables.
Oui, bien sûr. Voilà. Et alors, il y a une passion, il faut le dire tout de suite, le vin frais. Et alors, ça nous vaut toujours dans des algarades dans les restaurants. Et moi, je finis par dire au serveur, mais dans une pipe, faites ce qu'on vous demande et foutez-nous la paix.
Oui,
mettez-nous de la glace et puis vous occupez pas du chapeau de la
gamine. En plus, c'est totalement idiot, cette histoire de contestation du vin frais, puisque le vin chambré, c'est un vin à 16 degrés.
Voilà.
Donc, c'est pas un vin chaud.
Bien sûr que non. Puis quand on boit un petit machin, un petit beaujolais, un truc comme ça, ben, c'est pour faire penser, vous, que ça soit frais.
Même, c'est encore meilleur en sorbet. Donc, revenons aux courses,
oui.
Parce que vous avez fait dans le dernier numéro du Libre Journal un joli petit papier sur de nostalgie sur les
oui, c'est venu du fait que plusieurs copains me disent on ne va plus aux courses. Alors comme je l'explique dans le papier, je trouve que quand on a fini une fonction à laquelle ça s'attachait des privilèges.
Alors cette fonction, c'était quoi précisément? Parce que
alors attendez, moi c'est à la fois très simple et très compliqué. Sur ma feuille de paie, j'étais cadre de direction, il y avait écrit employé de bureau parce que ma fonction c'était de m'occuper des épreuves de qualification de trotteurs. Qu'on avait mis sur pied il y a une trentaine d'années. Enfin, ça avait été une décision, si vous voulez, au sein du comité des dirigeants des courses pour réguler l'entrée des trotteurs parce qu'il y avait trop de naissances. Et on a dit à un employé, ben voilà, vous vous en occupez. Et j'ai tout créé techniquement. Hein. L'idée n'était pas de moi, mais de mettre ça sur pied à travers la France, etc. Donc je m'occupais des qualifications. C'est-à-dire que quand j'ai été licencié économique et que je suis allé à la NPE, ils ne savaient pas où me mettre. Ils m'avaient mis dans la section charcuterie. Et ils m'ont jamais retrouvé de boulot.
J'aurais pu faire boucherie.
Mais d'autant que la fonction est morte avec moi. L'ordinateur, un jour, s'est assis à ma place, si j'ose dire, et ça a été fini. Voilà. Donc je considérais qu'ayant quitté un métier dans les meilleures conditions du monde, et merci messieurs les présidents, je n'avais aucune raison de conserver les privilèges qui vont avec la fonction. Parce qu'en supposant que j'ai eu un successeur, ça faisait deux fois les privilèges. Bon, là, il n'y en avait pas. Et puis ça tombe très bien parce que j'ai plus tellement envie d'aller aux courses, parce que je suis nostalgique de ce que j'ai connu quand j'étais encore plus jeune. Et puis pour tout vous résumer, ça plaira pas, j'ai connu un monde d'aristocrates, et maintenant c'est un monde de voyous.
Alors, vous en faites une description. Vous dites Grand Prix à Longchamp, Auteuil, Chantilly, que sont devenus les Boussac, Volterra, Rothschild, Agacan, où sont Marie-Hélène, Elvire Popescu, voilà. Comtesse de Foix, la Bégomme, Madame Derval. Et alors, vous nous faites l'opposition, si j'ose dire. Ouais,
oui. France pose aujourd'hui.
Et vous dites, croyez-vous possible de voir Miu Miu ou Béatrice Dalle avec capeline, sac à main et talons hauts, caressant le rond, au rond de présentation, le chanfrein d'un fringant coursier? Le bourrin, ça va, le rond, n'en parlons pas. Mais la présentation, aligner Fanny Ardant et Catherine Deneuve sur un hippodrome, les paris vont bon train pour savoir laquelle sera à l'arrivée.
Moi, j'ai plus d'émotion. J'avais 16 ans. Je me souviens, c'était le Grand Prix de Paris sur l'hippodrome d'Auteuil. Monsieur Boussac, qui était président de la Fédération des courses, propriétaire de Paris Turf, propriétaire de plein de journaux, enfin, qui était un grand bonhomme, c'était pas Bernard Tapie. On attendait son arrivée, c'était président de la Fédération. La Rolls grise s'est arrêtée devant l'escalier d'honneur de la tribune. Monsieur Boussac en camaïeu de gris, le tube, les gants, etc. Il y avait juste le bleuet à la boutonnière. Et tout était gris, somptueux. Et de l'autre côté, elle n'était pas toute jeune. Fanny Eldy, ancienne cantatrice de l'opéra, Madame Boussac, sublime de beauté, descendant de voiture. Et j'étais pétrifié. Je dis à mon père, mais elle est belle, c'est fantastique. Il m'a dit, tout à l'heure au cocktail, tu vas aller lui dire. Parce que qu'un jeune de 16 ans dise à une dame d'un certain âge qu'elle est jolie, ça va lui faire plaisir. Alors je vous fais court. Et après la course, je suis allé voir Madame Boussac, je fais un baisement. Je suis en admiration, vous êtes élégante, vous êtes belle. Alors bon, c'est complètement pétrifié. Elle m'a rien dit, jeune homme, j'ai atteint un âge où il faut qu'une femme sache s'habiller pour qu'on ait plus envie de la déshabiller.
Ah, oh, c'est très bien.
Elle a
de l'esprit en plus.
Les bandes de connes qui sont sur les champs de course aujourd'hui sont incapables de ce genre de sortie. Voilà. Et puis, je sais pas, il y avait la duchesse de Noailles qui était extrêmement élégante, très drôle, qui quittait parfois le rond de présentation pour aller flamber, mais alors avec le populo et la pelouse, parce qu'elle écoutait les pronos des gars qui marchent au rouge, parce que c'était plus qu'elle et qu'elle, et après elle revenait jouer avec les informations. Bon, tout ça était très, très rigolo, c'était très bon enfant. Aujourd'hui, il y a des moments d'hostilité. C'est toujours la même chose. Il n'y a peut-être pas de femme élégante aux courses parce que maintenant, ils se font cracher dessus. Avant, on criait au label bleu.
Ah oui, c'est
voilà. Et alors là, vraiment, c'est mai 68 qui a tué les courses. Parce que le prix des dragues a toujours lieu. Le prix des dragues, c'était l'équivalent pour les garçons du bal des débutantes pour les filles. Ça avait toujours lieu le dernier jeudi de juin sur l'hippodrome d'Auteuil. Et en mai 68, donc juin 68, c'était quand même très proche de la Révolution, on a prié les gens qui montaient dans les mailles coches, etc., de se faire extrêmement discret, de ne pas trop s'habiller parce qu'on était à deux doigts de la Révolution venait de se finir. Et l'année d'après, on rénovait l'hippodrome. Alors, ça a encore bloqué les choses. Et à partir de là, on a gardé une espèce de petite tradition, mais c'était plus aussi naturel et aussi récurrent chaque année. Bon, maintenant, il y a des dames avec des caplines. C'est des mannequins payés par la maison Hermès, parce que c'est Hermès qui sponsorise le prix de Diane, par exemple.
C'est un signe cette espèce d'effondrement. C'est cette période-là.
Oui, c'est ça.
On le voit quand on voit quand on regarde le cinéma. Avec ma femme, on regarde très souvent des films des années 50, ah, voilà. 60, début des années 60, où les femmes sont belles, les hommes sont beaux, ils sont bien habillés, ils sont élégants. D'un seul coup, ça a disparu.
Ben voilà. Et en plus,
on est dans la pouillerie.
Je l'aime beaucoup parce que c'est un personnage très bien, contrairement à ce que parfois on dit, mais l'Agacan c'est quand même une figure emblématique des courses. Il y a un peu pour quelque chose aussi. Un jour, je sais plus où exactement, enfin, c'était un grand prix sur un grand hippodrome. Il est venu chercher son trophée, il était en pull à col roulé. Bon, ça, ce que je dis là paraît totalement anodin, mais enfin, dans le monde des courses, c'est quand même la jaquette, le tube, les jumelles, enfin bon, voilà. La télévision sur les hippodromes, ça a tué le cérémonial de la jumelle aussi, enfin bon, plein de choses comme ça. Et puis, bon, bah, ça tant mieux, mais il y a des comités d'entreprise qui ont eu le droit d'avoir des couleurs, enfin des tas de choses comme ça, enfin, c'est devenu très populaire, mais partout. Et puis alors je sais pas si je peux aller jusqu'au bout, je le dis dans le papier, il y a aussi des marchands d'étoffes qui sont cru obligés de se coudre des casaques.
Ouais.
Alors, je vous signale que l'étoile est un dispositif qui est légal sur une casaque.
Et on peut, on n'appelle pas quand même encore la piste le sentier, non?
Non, c'est le sentier de la guerre, mais non, pas encore. À propos des guerres Popescu, une petite anecdote, j'espère faire sourire nos auditeurs. Madame Popescu était à la ville la comtesse Foix. Et le comte Foix était un monsieur très charmant. Il était un chromosome qui n'était pas tout à fait en place. Mais enfin, bon, il était très riche, il était comte, etc. Et il était bel homme. Et quand il se promenait sur l'hippodrome, l'œil à la boutonnière, la moustache conquérante, il y avait sur son passage, il était à vue. Voilà l'andouille d'Elvire. Voilà les courses. Alors, je vous rappelle que vous retrouvez tout ça dans le journal de Serbe de Bekech. 4 places France 10, Paris 10e, 110 euros. Voilà. Il y a d'autres choses aussi. Hein.
C'est pas le journal de Serge de Bekech.
De Madame de Bekech.
Daniel de Bekech.
Ah oui, c'est vrai que tout à l'heure, on va encore se faire engueuler. C'est le maillon fort, lui, c'est pas le maillon faible. Merci.
Merci, Marquis. Voilà, nous avons des annonces, peut-être. Ah, moi, j'en ai une, tiens. Non, je l'ai déjà fait.
Tout à l'heure, pendant la coupure technique, on a passé le concerto pour piano numéro 23 de Mozart. C'était l'Adagio.
Pour un fromage.
Et puis, je rappelle l'adresse qu'on me demande de la Griffe, 70 boulevard Saint-Germain, Paris 5e, téléphone 01 40 46 96 31. On a parlé de l'Afrique réelle, la boîte postale 6, 03 140 Charroux, près de Vichy. Et puis, votre libre journal, peut-être, oui. Le libre journal de la France Courtoise, ah ben non, 4 places Franz Liszt, Paris 10e.
Vraiment, ceux qui n'ont pas entendu, sont pas très attentifs. Alors.
Abonnement, ils n'ont pas eu le temps de noter, abonnement d'un an, 110 euros. Le courriel, on vous pose la question du courriel du libre journal. Il est en panne apparemment.
Oui,
on ne peut plus envoyer
courriel,
de message.
Non, je sais pas
Serge de Bette et Kedge, peut-il nous donner le nouveau courriel?
C'est très simple, c'est libre journal en un seul mot, @nous.fr. Libre journal, @nous.fr. Libre journal est en un seul mot et en minuscule. J'annonce d'ores et déjà que se tiendra les 11 et 12 septembre 2004 au séminaire d'émission 12 rue du Père Mazurier, 94 669 Chevilly-la-Rue, le colloque de Paris du Centre d'études et de prospectives sur la science. Vous savez, c'est cette association qui est animée, entre autres, par Dominique Tassot et par M. Prival, et qui essaye de réconcilier la science avec la Bible, avec l'Écriture. Et le prochain, donc ce colloque, aura pour sujet les interventions de Dieu dans l'histoire, avec parmi les intervenants, le professeur Pierre Rabichong, qui présentera les bases scientifiques du programmisme, Peter Wider, qui parlera des roches sédimentaires, et Dieu créa les roches sédimentaires, Dominique Tassot, la tour de Babel et la confusion des langues, Adrien Bonnet de Villers, comment fut accueillie en Europe la mission de Jeanne d'Arc, Pierre de Ken, les interventions de Dieu dans la Grande Guerre, et le soir, table ronde avec les conférenciers, ça c'est pour le samedi 11 et le dimanche 12. Derrière la scène, présence dans le secret des destins et des cœurs par le professeur Benoît Ness, la portée historique des apparitions par le père René Laurentin, Dieu dans l'histoire du salut, mythe ou réalité, par Claude May. Ça se terminera le dimanche à 16h30. L'adresse, je la répète, est séminaire d'émission 12 rue du Père Mazurier, 94 664 Chevilly-Larue. Et si vous voulez réserver, il faut vous adresser au CEP 4 rue de Beauvais, 91 410 Saint-Cyr sous Dourdan. Téléphone 01 60 81 27 24, 01 60 81 27 24. Bonne semaine, que Dieu nous garde.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national. À Paris sur 95 MHz, 6, à Caen sur 106, à Chartres sur 104.5, à Cherbourg sur 87.8, au Havre sur 101.1, au Mans sur 98.8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS, et pour le monde entier sur le site internet tv-radio.com. Vous venez d'entendre le libre journal de Serge de Bekech, avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 7 juillet 2004, de 18 à 21h, on différé jeudi 8, dans la nuit de 2h à 5h, et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce libre journal a été réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres.